Bonjour à toutes et tous. Pour cette première séance du Conseil municipal 2019, j'en profite pour souhaiter tous mes bons voeux à ceux que je n'aurais pas croisés à des vœux ou à notre événement le Prélet-sur-Neige. Mais en tout cas, tous mes vœux de santé, de bonheur, d'amitié, de bien-être familial, tout ce qui vous fera du bien en 2019. Et d'ailleurs, pour bien commencer cette séance du Conseil municipal, Magali va faire l'appel de la séance.
Bonjour. Donc, pour l'appel, Monsieur Hervé Stassinos. Monsieur Christian Garnier. Madame Valérie Rialan. Madame Josiane Sicardi. Monsieur Pascal Campins. Madame Cécile Gomez. Monsieur Jean-François Plane. Madame Bérénice Bonal. Monsieur Jean-Michel Perratou. Monsieur Paul Moreau. Madame Céline Pratier-Aiguier. Madame Magali Vincent présente. Monsieur Denis Chambi. Madame Viviane Thiard, Monsieur Véga Jean-Claude, Madame Bénédicte Lemoigne, Monsieur Daniel Vesreau, Monsieur Daniel Duvoux, Madame Agnès Biazuto, Madame Valérie Aubry, Monsieur Jean-Marc Hidich, Madame Dominique Roland, Madame Nicole Roux, Monsieur Lionel Riquel, Monsieur Patrick Roas, Madame Nicole Vaca, Monsieur Frédéric Fior, Monsieur Stéphane Beltra, Madame Jennifer Dely, Monsieur Yves Parent, Madame Emmanuelle Nigrelli, Monsieur Olivier Durand, Monsieur François Meurier.
Merci. J'ai reçu le pouvoir de Viviane Thiard pour Lionel Riquelm, Céline Pratier-Guier pour Valérie Rialan, Dominique Roland pour moi-même, Josiane Sicardi pour Monsieur Paul Moreau. Voilà, donc nous avons le quorum. Cette séance peut donc commencer. On va commencer avec l'approbation du PV de la séance du 10 décembre 2018. S'il n'y a pas de questions autres, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors ensuite, donc la question numéro 1 concerne le ROB 2019, le rapport sur les orientations budgétaires pour l'année 2019, sachant que ce ROB s'inscrit bien sûr dans le cadre du transfert à la métropole effectif au 1er janvier 2019, avec des transferts de compétences et toutes les écritures qui vont bien, qui ont commencé en 2018 et qui se finalisent en 2019. Alors, concernant ce ROB, on va commencer par les dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement. L'enveloppe nationale de 2019 est annoncée comme stable en 2019, donc stable par rapport à 2018. Mais on voit bien que ces enveloppes de dotation, au travers des DSU, des DSR et d'un certain nombre de calculs, en fait, on se retrouve soit avec une DGF qui est à euro constant, dans le meilleur des cas, mais qui bien souvent baisse un petit peu, alors beaucoup moins que les années précédentes, mais on est quand même face à des baisses de dotation qui continuent de façon plus faible. Ensuite, impôts et taxes. Alors, concernant les impôts, donc bien sûr, taxes d'habitation, taxes sur le foncier bâti et taxes sur le foncier non bâti, pas d'augmentation d'impôts prévue en 2019. On reste sur la même logique de ne pas augmenter les taux d'imposition sur l'année 2019. Les bases augmenteront. Je rappelle que le calcul des impôts s'est fait sur les bases qui sont réindexées tous les ans par l'Assemblée nationale, sur lesquelles on applique les taux décidés par la commune. Ces taux n'ont pas été modifiés en 2019, quand elles n'ont pas été modifiées depuis 2015. Concernant la TH, il y a bien sûr la suppression de la TH qui est annoncée pour 2020. Donc, concernant la première tranche, c'était 30%, qui a été décidée donc par le gouvernement. La revalorisation annuelle des bases locatives est prévue cette année à 2,2%. Et je crois que je l'ai tout dit sur les taxes foncières et la taxe d'habitation. Je rappelle que sur la taxe d'habitation, donc, ce qui est annoncé, c'est 30% pendant 3 ans, avec une suppression totale qui est annoncée pour 2020 ou 2021. On ne sait pas comment ça va être remplacé. A priori, il a été plus ou moins annoncé que ça sera remplacé par une nouvelle taxe. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, on a eu le cas, on a eu le premier remboursement. C'est même pas un remboursement, c'est un dégrèvement. Donc, pour l'instant, c'est bien dégrévé à 1 euro. Il n'y a pas de modification répercussion pour les finances de la commune à ce stade. On verra à quelle sauce on est mangé plus tard. Alors ensuite, les allocations compensatrices, elles sont versées par l'État. Donc on prévoit une stabilité en 2019. Normalement, les allocations compensatrices ne devraient pas être modifiées, c'est-à-dire qu'on devrait se retrouver à un niveau de 350 000 euros, comme en 2018. Les droits de mutation, donc les droits de mutation, ce qu'on appelait les frais de notaire, donc en fait, ce sont les taxes qui sont perçues par différentes collectivités, dont la commune. Alors, on a une commune qui est de plus en plus attractive, qui attire beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'installer auprès d'elle, tant mieux. C'est-à-dire qu'on a une dynamique, pas simplement liée à ça, parce qu'il y a aussi une dynamique sur tout le territoire. Donc les droits de mutation, le résultat c'est que les droits de mutation ont été plutôt bons l'année dernière, on a une bonne surprise. Ceci étant, par mesure de prudence, gestion en bon père de famille, le cap on le conserve pour 2019. L'idée c'est de, on va mettre une petite somme, on aura peut-être une bonne surprise en fin d'année, mais il vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Donc l'idée c'est de continuer à gérer la commune en bon père de famille et être très prudent sur les recettes comme sur les dépenses. Ensuite, le fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC. Donc, loi de finances 2019 confirme le montant du fonds, 1 milliard d'euros pour la France, malheureusement pas pour la commune du Pradet. Donc, ça nous met à un niveau en 2019, pardon, identique en 2019 par rapport à 2018, c'est-à-dire 145 000 euros. La dotation de solidarité communautaire, la DSC, versé par TPM, montant fixé depuis 2004 à 98 978 euros. Là aussi, pas de changement. Alors, l'attribution de compensation, ça, c'est déjà été vu durant plusieurs conseils municipaux. C'est déjà un point qui a été évoqué. Donc, l'attribution de compensation, je rappelle, en fait, c'est le calcul qui est fait dans le cadre de transferts de charges. On transfère des recettes, on transfère des charges. Il y a une attribution de compensation qui est faite par TPM. Donc, en fait, on est passé, mais ça a commencé déjà en 2018, on était en 2017 à plus 900 000 euros, pour prendre un chiffre rond, et on s'est retrouvé en 2018, et donc en 2019, on prend exactement la même attribution de compensation à moins 788 000 euros. Tout ça compensé par des recettes et par des charges. Donc, rien de nouveau, on se retrouve en 2019 avec la même AC, la même attribution de compensation qu'en 2018. Ensuite, les charges à caractère général. Là encore, signe de bonne gestion, on prévoit des charges à caractère général pour l'année prochaine en stabilité à hauteur de 2,5 millions. Elles étaient lors de 3 millions en 2018, mais enfin, il y a aussi des transferts de charges qui sont en rouge sur votre document à hauteur de 600 000 euros. Mais donc, ce qu'il faut retenir, parce que c'est vrai que le passage en métropole va entraîner des écritures comptables, mais pour qu'il y ait une facilité de lecture des différents éléments, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une stabilité sur les charges à caractère général dans le cadre du ROB. Le personnel, pour la cinquième année consécutive, pas de changement, stabilité de la masse salariale, une masse salariale qui est maîtrisée, qui est stabilisée. On a fait beaucoup d'efforts, les agents ont fait beaucoup d'efforts pour restructurer, pour nous aider à restructurer la mairie. On a revu les process, on a embauché où c'était nécessaire. On a aussi réduit parfois quand c'était possible. Le résultat, c'est qu'on a une situation assainie sur l'ensemble de la gestion de la commune. Concernant le personnel, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il faut savoir qu'il y a une augmentation d'un masse salariale qui est quasi naturelle avec la GVT et puis les réformes gouvernementales engagées depuis 2017. Donc c'est le parcours professionnel des carrières et des rémunérations, le PPCR, je lis pour ne pas me tromper, donc il y a une augmentation un peu naturelle de la masse salariale tous les ans, environ 2-3%, ça dépend des années. Donc ça permet aussi pour les agents de gommer les effets de l'inflation. Voilà, donc toute cette gestion qui a été entamée depuis 2014, ça nous a permis en fait d'améliorer aussi les conditions de travail des agents au travers de la mise en place du RIF7, qui a été vu en comité technique paritaire, et aussi par la mise en place de tickets restaurants au Pradet à partir de l'année 2019, pour une valeur faciale de 6 euros. Ce qui est bien naturel, il faut savoir que dans le cadre du passage en métropole, notamment les agents qui ont été transférés bénéficiaient de tickets restaurants, comme beaucoup de communes en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de communes qui ont des agents qui bénéficient de ces tickets restaurants. Donc la volonté municipale, c'était de, par mesure, mesure d'équité, par mesure de reconnaissance aussi par rapport à tout le travail qui a été effectué ces dernières années pour restructurer la mairie, pour contenir la masse salariale, de faire un petit coup de pouce pour tous les agents, au travers donc de la mise en place de ces tickets restaurants pour les agents de la commune. Alors 2019, c'est l'année du transfert aussi, complet de 29 agents et du transfert partiel de 2 autres agents vers TPM. Alors, ça nous donne quoi en termes de chiffres? Donc, les rémunérations perçues par l'ensemble du personnel en 2018, 4,4 millions. Ensuite, il faut y ajouter, bien sûr, les heures sup à hauteur de 87 000 euros, les compléments de rémunération en NBI pour un montant de 73 000 euros, les primes indemnités pour un montant de 833 000 euros, et puis tous les autres éléments légaux, les URSAF, les CAF, et puis j'en passe, les ACDIC, etc., CNFPT, pour un montant de 2,5 millions d'euros. Donc, au regard de tous ces éléments, pour l'exercice 2019, la projection budgétaire des charges devrait se porter à 7,4 millions. C'est-à-dire qu'on reste aussi là, dans la stabilité. Si on prend les budgets de 2016-2017, on reste à un niveau qui est identique. On reste sur une stabilité des dépenses de personnel. Alors, l'effectif global, ensuite, il y a un tableau concernant le personnel avec des projections sur 2019. Donc vous avez dans la colonne de droite les postes qui devraient être en fonction, enfin qui devraient être remplis pour toute l'année 2019 avec un total de 183. On vient de 209, mais je vous rappelle qu'il y a eu les transferts. Donc entre 2018-2019, il y a les transferts de personnel. Et il y a aussi quelques départs en retraite. Voilà. Et en dessous, vous avez ensuite la répartition entre les agents de catégorie A, B et C. Il nous reste donc les autres charges de gestion courante. Donc c'est le poste budgétaire qui regroupe le paiement des subventions, participation des organismes publics, indemnités. Et il y avait en 2000, notamment en 2017-2018, il y avait deux gros paiements de 250 000 euros chacun, 200 000 euros chacun, qui correspondaient à la fin du contentieux sur la Mounine, qu'on n'aura donc plus en 2019. Et puis il y a des participations aussi qui ont disparu dans le cadre du passage en métropole, notamment le SPICI, le SIAC, le CIEPERS et quelques-uns d'autres. Et on maintient, en tout état de cause, on maintient le soutien aux associations Pradetam, mais les autres charges de gestion courante, là aussi, sont contenues. Le prélèvement SRU, donc là, vous connaissez l'histoire, la commune est toutes les communes d'ailleurs sont soumises à une obligation de 25%. Sur le territoire TPM, vous savez qu'il n'y a qu'une seule commune qui répond à cette obligation, c'est la commune de Lagarde. Les autres communes, la Seine est aux environs de 16-17%, Toulon est à 15,6%. Seule Lagarde remplit son objectif de 25%. Toutes les autres sont soit soumises à pénalité, soit exonérées, parce qu'ils sont aussi bénéficiaires de la DSU, ce qui n'est plus le cas de la commune du Pradet depuis 2015. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a été mis en carence par la préfecture, en dépit des efforts qu'on avait faits, on a été mis en carence par la préfecture au 1er janvier 2018, et ils en ont profité pour augmenter l'impôt, c'est une forme d'impôt de toute façon, effectivement, pour augmenter notre amende de 51%, ce qui nous met à 300 000 euros d'amende tous les ans. Alors, on peut gommer, on ne l'avait pas fait l'année dernière parce qu'on n'avait pas investi en 2017, donc, en revanche, on a donner une subvention à un des opérateurs, à un des bailleurs sociaux, ce qui permettra cette année de déduire de 400 000 euros de nos dépenses de la pénalité. Donc on n'aura pas d'effet au niveau du budget de fonctionnement, mais on aura quand même l'effet au niveau du budget d'investissement, parce que c'est 300 000 euros qui sont ponctionnés sur les investissements de la commune. Voilà, donc cette année, il reste à trouver une opération à caractère social sur laquelle on peut investir un petit peu d'argent de manière à gommer ensuite l'année 2020, parce qu'en fait c'est N plus 2. Alors l'épargne brute et la dette. C'est bien ça. Alors l'épargne brute, c'est en fait la différence entre les recettes et les charges, pour faire court. Donc c'est pareil, là, notre bonne gestion, notre gestion saine, la gestion en père de famille permet de maintenir notre épargne brute. Et puis, donc, on a un petit peu, comme l'a rappelé la Chambre régionale des comptes, ça nous permet d'avoir quelques marges de manœuvre, pas énorme, mais un petit peu de marge de manœuvre, continuer à générer de l'excédent, continuer à investir, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, situation saine des finances de la commune. Le résultat de cette gestion saine, je l'ai dit, pas d'augmentation, pas d'augmentation information sur les taux. C'est aussi une dette qui diminue, puisqu'on était à 12 millions de dettes en 2013 et on va passer cette année à 6 millions de dettes. Donc on aura coupé la dette en deux en l'espace d'un mandat, sachant qu'il y a quand même 1 million de dettes qui a été transférée à TPM dans le cadre du transfert des actifs à la métropole. On a transféré 1 million d'emprunts à la métropole. Donc, mais malgré ça, on avait quand même une dette qui baissait, puisque tous les ans, on rembourse de la dette et on n'emprunte pas, ou quasiment pas. Donc on a réussi à couper la dette en deux en 5 ans, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc la dette en euros par habitant, on vous l'avait dit, on a réussi à passer en dessous de la moyenne nationale l'année dernière. Bah là, on confirme, on baisse encore même en fait, puisqu'on reste bien en deçà de la moyenne nationale, qui est à 893 euros et nous sommes à 647 euros. Donc continuons nos efforts. Ensuite, vous avez une répartition des dettes par type de risque entre fixe, variable, c'est la barrière aux zones, les courbes. Reste l'emprunt toxique, hein, ce qu'on appelait l'emprunt toxique, ce qui est un emprunt toxique d'ailleurs. Bon, bah là, on est dans le. On voit nos amis de la SFIL de temps en temps, on s'appelle tous les ans ou tous les 6 mois. Les propositions qui sont faites, nous considérons qu'elles ne sont pas intéressantes, donc on reste plutôt sur l'emprunt toxique à ce stade. Et en étant très, très vigilant à la situation du gap entre le CMS de la livre anglaise et l'euro, le CMS euro. Alors l'investissement, je vous le disais, on le poursuit, on le continue. En 2019, nous prévoyons environ 4,5 millions d'euros programmés avec notamment, et pas seulement, les travaux de réalisation du pôle culturel, le remplacement du gazo synthétique du stade Antony, la réhabilitation de l'église Saint-Raymond. On vient d'ailleurs, on a une notification la semaine dernière, puisqu'on a fait une demande de subvention à la région qui est acceptée pour un montant de 105 000 euros, ce qui est pas mal, sur un montant de 300 000. Le lancement des études pour la rénovation de l'école Marcel Pagnol. Il y a eu un article de presse dessus, donc je pense qu'on sera amené à en reparler de toute façon en courant d'année. Les projets sélectionnés dans le cadre du budget participatif, les travaux de réhabilitation des nouveaux locaux de la police municipale, les subventions pour l'aide à la production de logements sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est au minimum 300 000 euros. Et puis si on trouve une opération, on met plus, on mettra plus. Ensuite, les subventions pour l'opération rénovation de façade qui a commencé l'année dernière, qui reporte un franc succès, parce qu'on a déjà deux façades qui ont été, trois même, qui ont été refaites. On a une vingtaine de dossiers ou une vingtaine de personnes qui sont venues nous voir. Donc, un gros enjeu pour nous, l'opération façade, pour embellir la ville. On a vraiment, 2019, un objectif, c'est de multiplier le nombre d'opérations sur les façades, de manière à ce que la ville soit encore plus attractive, encore plus belle. Et puis, bien sûr, la poursuite des travaux de mise en accessibilité des locaux communaux, la sécurité des écoles, et le remplacement des véhicules pour les équipes techniques. On arrive un petit peu au bout parce qu'on a remplacé déjà pas mal de véhicules au service technique. Et puis on a aussi acheté un beau broyeur cette année. Et on se pose la question pour une nacelle. Je pense que ça rendrait service au service technique et surtout aux administrés. Voilà, toujours dans notre politique d'investissement, bien sûr les plans financiers, toujours important pour nous. Donc on essaye d'impliquer au maximum de partenaires, le département, la région, l'État, la CAF, l'Europe, tout le monde, tous ceux qui nous aident à faire nos projets sont bienvenus et on arrive à avoir pas mal de subventions au final, ce qui aide les finances de la commune par les temps difficiles. Alors l'attribution de compensation, même chose qu'en 2018, c'est versé à TPM afin de financer les investissements récurrents. Vous savez que dans le montage de l'AC, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on transfère des charges, on transfère aussi des recettes. Et puis, il y a des montants d'attribution qui ont été calculés. Voilà, donc là, c'est les fameux 867 000 qu'on ne retrouvera donc pas en 2019. L'investissement, c'est 4,5 millions. 437 000, pardon, je me trompais de ligne. 437 000 pour l'AC, pardon. Et donc, 4,5 millions de dépenses d'investissement planifiées pour 2019 au niveau communal. Donc, des dépenses d'investissement au niveau communal. Et pour finir, le budget annexe des transports. Là, pareil, pas de grosses modifications par rapport à l'année dernière. On retrouve toujours les équilibres qu'on a depuis quelques années, avec 125 000 euros en recettes de prestations, sachant qu'il y a une bonne partie qui sont en fait des subventions communales. 75 000 euros pour les charges de personnel. En fait, le personnel émarge sur le 012 de la commune, mais en fait, c'est refacturé à la régie par la commune. Et ensuite, les charges générales à hauteur de 16 000 euros. Voilà, j'en ai fini pour l'Europe. J'ai essayé d'être succinct, mais ça a quand même duré un petit quart d'heure. Voilà. Donc écoutez, le débat est ouvert. Si vous avez des interventions à faire, vous êtes bien sûr plus que les bienvenus dans cette assemblée. Monsieur Meurier.
Merci. Donc j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous, parce que c'est vrai qu'on est encore en janvier. Donc. Alors, en page 2, il est écrit que les taux de fiscalité ne seront pas augmentés en 2019. Est-ce qu'il est question uniquement des taux de fiscalité sur lesquels la mairie a la main ou de tous les taux? Et qu'en est-il de la taxe GEMAPI? Son taux va-t-il évoluer? Merci.
Oui, alors effectivement, nous, on ne vote ici que les taux communaux, donc les trois taxes que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, donc ces trois taux n'ont pas prévu d'évoluer. Pour la question GEMAPI, ben oui, c'est une taxe qui a été mise en place l'année dernière. Voilà, donc ça n'a pas prévu non plus d'augmenter. Monsieur Fior.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous voyez, merci monsieur le maire cette fois. C'est toujours difficile avec moi. Hein.
Quand on dit Smart City, c'est jamais pour rien.
Première question préalable, est-ce que vous comptez nous faire voter cette délibération, ce rapport d'orientation budgétaire? Donc, si la réponse est oui, nous notons que nous n'avons pas de délibération à voter. Ça nous interpelle un petit peu parce que c'est quand même le seul dossier où on n'a pas de délibération à voter. Mais bon, vous innovez 107, donc il n'y a aucun souci. Sur le fond, alors vous avez évoqué un certain nombre de points. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de chacune de vos interventions. Donc je vais faire simple. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, puisque vous avez communiqué à la presse lors de vos vœux, et puis vous avez bien communiqué d'ailleurs. Début d'année vous est particulièrement favorable, félicitations à Varmatin pour tous ces articles. Vous avez communiqué un chiffre, 647 euros de dette, et vous avez largement communiqué en disant que vous aviez diminué la dette de la ville par deux et que la moyenne nationale était à 893 euros. Très bien. La presse l'a bien retenu, c'est apparaît en gros dans le journal Varmatin. 647 euros. Bon, alors 647 euros, ce qui est étonnant, c'est qu'a priori, c'est le niveau de la dette l'année prochaine. Pas cette année. Donc c'est bien, vous anticipez. Mais vous auriez pu aller beaucoup plus loin, puisque vous avez annoncé également votre candidature. Vous auriez pu annoncer le niveau de la dette en 2026. Je suis sûr que ça aurait fait encore un effet plus important. Peut-être. Je lui souhaite. Je ne nous le souhaite pas, mais je lui souhaite. Eh bien, monsieur Vega, vous avez déjà un soutien, monsieur Stassinos. Mais est-ce que c'est intellectuellement correct d'annoncer un niveau de dette au 1er janvier 2020 alors qu'on est au 1er janvier 2019? Je m'interroge. Est-ce que c'est intellectuellement correct de ne pas annoncer lors de ses voeux qu'il y a 1 million d'euros qui est transféré à TPM dans votre désendettement? Je vous rappelle que transférer la dette à TPM, c'est toujours les prédateurs qui la payent. On est bien d'accord. Donc pour un désendettement, ça fait un peu artifice. Je vous rappelle également que la comparer à 893 euros de moyenne nationale, je veux bien, mais quelle est l'année de cette moyenne nationale, monsieur le maire? 2017. 1er janvier 2017. Donc si je comprends bien, vous prenez une dette au 1er janvier 2020, vous la comparez avec une moyenne nationale au 1er janvier 2017, et vous êtes champion du monde. Félicitations. à la hauteur de la réputation du nouveau Pradé. J'en prends acte. Je vous rappelle quand même que sur cette histoire d'endettement, et puisque vous avez repris l'argument massu de la Chambre régionale des comptes, et que vous réécrivez merveilleusement bien l'histoire, je vous rappelle que vous êtes arrivé à la tête d'une commune sinistrée, en rouge, et qu'il fallait saisir la Chambre régionale des comptes, parce que les comptes étaient insincères, et que les 5 500 000 euros de crédits budgétaires et de résultats comptables que nous vous avions laissés n'existaient pas. À la suite du rapport de la Chambre, la situation est, comme vous dites, globalement satisfaisante. C'était difficile de faire moins bien que 5 500 000 euros de résultats excédentaires quand vous êtes arrivé, monsieur le maire. Donc vous avez pris une dette effectivement à 12 millions d'euros. Vous aviez 5 500 000 euros dans la caisse. Vous en avez transféré 1 million d'euros à TPM. Ça fait moins 6 500 000 euros. Et vous arrivez à l'exploit, 12 moins 6 égale 6. C'est très fort. Vous avez dû énormément travailler pour réduire cet endettement. Je vous rappelle également que le désendettement, et je sais de quoi je parle, puisque étant adjoint aux finances sur la précédente mandature, je n'ai fait que désendetter la ville. Et que je l'ai pris à 16 millions, qu'on l'a laissé à 12, et que ça n'a pas empêché Bernard Pézerie de perdre. Par contre, ce que je note, c'est que Roland Joffre, qui avait augmenté la dette jusqu'à 16 millions d'euros, lui a fait 3 mandats. Donc, vous voyez, tout est relatif. Vous avez désendetté, on vous le concède et on vous l'admet bien volontiers, que chaque année, vous avez désendetté la dette, comme nous. Par contre, nous avions baissé les taux. Vous ne l'avez pas fait. Nous, on n'avait pas voté d'augmentation des taux à TPM. Vous avez augmenté la taxe d'habitation à TPM. Nous, on avait investi 26 millions d'euros pendant toute la durée du mandat. Vous n'êtes certainement pas à ce niveau-là. Ça ne nous a pas empêché de perdre. J'espère que l'histoire qui s'écrira ne fera pas que le pronostic qui a été fait par Jean-Claude Véga verra le jour. Mais pour le moment, je trouve quand même que utiliser la dette comme vous l'avez utilisée, sans dire qu'un million a été transféré à TPM lors de vos vœux, sans dire que ce que vous comparez, c'est des choux et des carottes parce que ce n'est pas la même année, et en allant chercher la dette à la fin de l'année, tout ça n'est pas très honnête intellectuellement. Donc, je vais rester sur ce point-là, sur mon intervention, et je vous laisse répondre. Merci, monsieur le maire.
Je ne vais pas répondre. Je pense que l'idée, c'est que chacun fait des commentaires, et je pense que c'est le but du jeu, c'est de débattre simplement. Oui, vous focusez sur la dette, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait. On a contenu les charges de personnel, on a contenu les charges courantes. On a géré en bon père de famille. Alors, vous faites un focus sur la dette parce que c'est peut-être un des endroits où on était les plus performants, mais pas que là-dessus. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on a été très performants. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment sur les marchés. On a mis en place des vrais procédures de marché pour sécuriser l'ensemble de la chaîne. On a modernisé les outils de travail. Donc, je pense que c'est sur beaucoup d'aspects de la gestion qu'on a amélioré le fonctionnement de la commune. Mais vous avez souligné, parce que c'est vrai que ça a peut-être du mal un petit peu à passer, mais oui. Je confirme tous les chiffres qui ont été vus, que vous avez rappelés, parce que vous voulez faire un petit focus sur la dette. On était à 12 millions, on descendra en 2019 à 6 millions, dont 1 million qui a été transféré à 6 millions, et dont, comme j'ai dit tout à l'heure, 1 million a été transféré à TPM. Je ne m'en suis pas caché, je l'ai toujours dit. Donc voilà, c'est très clair. Vous savez, les vœux, c'est moi qui les fais, donc je dis ce que je veux, et on ne peut pas tout dire sur une séance de vœux. Non, mais monsieur Fior, ça vous a jamais l'occasion de le faire, mais quand on fait ses vœux, on a beaucoup de choses à évoquer sur une séance de vœux. Donc chaque maire dit ce qu'il veut aux séances de présentation de vœux. Ce n'est pas la séance de vœux de monsieur Fior. Je crois que vous avez fait récemment, vous avez cédé vos vœux. Vous avez expliqué votre vision de la gestion de la commune. Moi, j'explique ma gestion de la commune. Je ne cache rien, c'est transparent. On vous met tous les éléments dans le robe. On vous met tous les éléments dans le budget. Vous avez tous les éléments pour savoir ce qui se passe en termes de gestion communale. L'ensemble des prédétants ont tous les documents qu'ils souhaitent pour savoir ce qui se passe. À eux de décider si c'est bien géré, mal géré. À eux de décider si baisser, diviser la dette en deux, en 6 ans, c'est une belle performance ou pas. À eux de décider un certain nombre de choses, à eux seuls. Voici, à Monsieur Fior, allez-y, je vous en prie.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication sur le fait qu'on n'a pas de délibération?
Écoutez, je ne vais pas vous donner une explication. Je propose, c'est justement de voter l'Europe. Ben voilà. Mais moi, j'ai une délibération. Écoutez, j'ai une note de synthèse, j'ai tout. Donc, d'accord. On va, écoutez, ce que je vous propose, c'est de voter. C'est le rapport qui est obligatoire. Donc. Non, mais c'est un rapport, Monsieur Fior. On donne connaissance. Avant, maintenant, vous savez, Madame Denis, on s'exprime, pas à peine de. On s'exprime calmement, laissez-moi répondre. Il y avait un DOB avant. Il y avait un DOB, on donnait un rapport qui était qui n'avait pas besoin de vote. En 2016 ou 2017, je ne sais plus, ils ont changé la règle. Mais c'est toujours un ROB qu'on donne et on vote maintenant l'Europe. Avis favorable, défavorable. Bah, on le vote, c'est tout. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Donc un contre. Qui s'abstient? Abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2. Alors, ça concerne en fait le passage en métropole. Dans le cadre du transfert en métropole, il y a un certain nombre de documents qui accompagnent le transfert, le passage en métropole. Et notamment, nous avons ce qui est proposé à l'Assemblée aujourd'hui communale, c'est l'adoption de la charte de gouvernance et de confiance entre la métropole, Toulon, Provence, Méditerranée et l'ensemble des communes membres, c'est-à-dire 12 communes. Voilà, donc la création de la métropole, je rappelle que ça répond en fait à deux objectifs. Renforcer l'attractivité et le rayonnement du bassin métropolitain en se positionnant à statut égal dans les échanges avec l'État, la région et le département, mais aussi l'international. Et ensuite, organiser le territoire de façon plus cohérente par le biais d'une action coordonnée et en synergie avec les communes membres pour favoriser la qualité de vie des concitoyens et le développement d'investissements au coût maîtrisé. Et ensuite, donc, la transformation institutionnelle entraîne un certain nombre de modifications, et notamment des transferts de compétences. Et afin d'être certain que ce transfert se passe bien et qu'on soit tous d'accord sur la façon de gérer la métropole, il y a un certain nombre de points qui ont été mis dans cette charte. Je rappelle quand même la façon dont est gérée la métropole. Il y a d'abord des instances politiques qui sont définies, avec la mise en place d'une conférence métropolitaine qui se réunira au moins 2 fois par an avec les 12 maires. Un conseil métropolitain, donc l'assemblée délibérante, qui est le reflet de ce qui se passe dans ce conseil municipal, c'est le conseil métropolitain. Et il se réunit au moins 1 fois par trimestre. Il y a ensuite un bureau métropolitain qui se réunit en général tous les 15 jours et qui vote les projets passés préalablement en commission thématique. Il y a ensuite des commissions thématiques, justement, qui est un lieu de concertation pour échanger sur les différents sujets, donc voirie, culture, numérique et j'en passe. Et ensuite, des commissions d'orientation stratégique qui pourront réunir les élus des communes référents sur une thématique précise. Donc c'est au niveau politique. Au niveau technique, il y a un groupe de chargés de mission constitué des DGS des 12 communes qui se réunit au moins 1 fois par mois. Et l'idée, c'est que les DGS de toutes les communes se mettent d'accord sur la façon dont il faut opérer la métropole par rapport au fonctionnement des communes. Il y a ensuite des groupes de travail thématiques avec des agents municipaux qui sont spécialisés selon le sujet qui est choisi. Ensuite, il y a une organisation qui est une organisation territoriale. Donc le choix qui a été fait par le président de la métropole et l'ensemble des maires et des élus, c'est donc d'organiser en fait ce qu'on appelle des antennes territoriales pour favoriser la proximité et assurer une transition en douceur vers la métropole plus intégrée peut-être à terme. L'idée, c'était de mettre en place des antennes de proximité. Donc ce sont les mêmes agents qui gèrent le service et ce sont toujours les équipes municipales qui s'occupent de la suite des événements. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser le pouvoir aux équipes municipales et de continuer à travailler comme avant, mais dans de meilleures conditions, à la fois financières, techniques, et d'être beaucoup plus efficient dans l'action publique au niveau du territoire. Donc ce qu'on veut, c'est bien réaffirmer ce couple métropole-commune, de manière à ce que le travail des collectivités, donc des 13 collectivités, la métropole et des 12 communes, soit encore plus efficace, qu'on arrive à offrir un service public de meilleure qualité à moindre coût. Voilà. Alors après le passage en métropole, je pense que ça prendra plusieurs années. On a fait les premières étapes, ça se passe bien. Ça va certainement s'améliorer dans les années qui viennent parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a renforcé l'attractivité du territoire. C'est vraiment l'objectif de la métropole. On va continuer à améliorer le système. Et je pense que dans les années qui viennent, vous verrez pas mal de délibérations passées, peut-être pour changer la charte de gouvernance, peut-être pour changer le pacte financier qu'on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est construire la métropole pas à pas, la construire de façon apaisée, et puis que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette charte, sinon je vous propose de la voter. Monsieur Meurier.
Pour le Rassemblement national, la métropole est une instance trop bureaucratique et technocratique, c'est-à-dire opaque et éloignée des citoyens. D'ailleurs, dans cette charte, pas une seule fois le mot démocratie n'est mentionné sur un territoire où un citoyen sur deux ne va plus aux urnes. Alors, de la coopération intercommunale, du dialogue entre une ville-centre et sa périphérie, des partenariats en matière de transport, d'équipement et de développement économique, c'est utile, sans doute, pour encadrer et gérer des défis liés à l'urbanisation et à l'attractivité d'un territoire. Mais nous déplorons que cela se traduise par des transferts de compétences, des taxes intercommunales additionnelles et un morcellement des lieux de décision, tantôt à la mairie, tantôt à la métropole, tantôt dans des antennes métropolitaines. Je voterai donc contre cette charte de gouvernance. Merci.
Bon, j'ai bien compris la position du Rassemblement national qui me rappelle la dernière intervention. Nous, c'est le Rassemblement métropolitain. Je crois que vous l'avez bien compris. Je pense que ce Rassemblement métropolitain, ça permet au contraire d'être plus efficace dans l'action publique. Ce que j'expliquais avec la mise en place d'antennes de proximité, c'est que justement, on cherche à garder cette proximité avec les citoyens. On cherche, il n'y a pas d'un côté la métropole et de l'autre côté les mairies. Il n'y a pas une décision qui est prise par la métropole qui concerne un territoire, si ce n'a pas été vu en bureau, si ce n'a pas été validé par le maire. Donc ce morcellement, il n'existe pas. L'opacité, il n'y en a pas non plus. Il y a un conseil communautaire, alors vous êtes tous bienvenus, vous pouvez y participer, c'est ouvert comme un conseil municipal. Tout est en ligne, les délibérations sont en ligne, les rapports sont en ligne. Donc l'opacité aujourd'hui, vous savez, je pense que le législateur, quels que soient les partis politiques, ils ont tous essayé de donner encore plus de transparence à la vie politique. Je crois que c'est un mouvement de fond qui est facilité par la mise en place des nouveaux moyens de communication. Je crois que la transparence, elle est aujourd'hui à tous les niveaux, dans toutes les collectivités. TPM s'y emploie, la mairie s'y emploie. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'opacité. Après, vous le vivez peut-être en tant que tel, mais je crois que ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a surtout un vrai couple métropole-commune qui permet de continuer à avancer en étant plus fort. Il y a les moyens techniques, les moyens juridiques, les moyens financiers qui sont mis en place par la métropole, qui aident aux différentes communes, dont le Pradet, à pouvoir continuer la dynamique de développement, la dynamique d'attractivité. Et on est vraiment dans ce registre. Monsieur Meurier, je vous en prie.
Est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être on va le voir après dans la question 3, est-ce que vous pouvez nous parler donc de la clause de revoyure des attributions de compensation? Apparemment, c'est dans le pacte financier. Mais voilà, là, en fait, il en est déjà question dans la charte, en page 2.
Je peux en parler maintenant, si vous voulez, mais ça sera effectivement, c'est lié à la question numéro 3. En fait, la clause de revoyure, le calcul des AC, ça s'est fait sur une base déclarative. Donc chaque commune a dit voilà ce qu'on a en termes d'investissement, ce qu'on a en termes de fonctionnement, et les AC ont été calculés sur cette base. Donc, toutes les communes ont joué le jeu, hein, bien sûr. On a tous été très transparents avec la métropole, mais pour préserver aussi les finances de la métropole, de manière à ce qu'il n'y ait pas que des transferts qui se fassent au détriment de la métropole, ou des communes d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une clause de revoyure qui a été prévue, qui permet à TPM, à la métropole donc, et à chacune des communes de faire un bilan en fin d'année, de voir que par rapport aux calculs qui avaient été faits, est-ce qu'on était trop prudent, pas assez prudent. Donc la clause de revoyure, ça consiste simplement à ce que les communes se réunissent avec TPM et puis voir si les calculs qui avaient été faits lors des transferts de charges qui entraînent le calcul de l'AC étaient fiables ou pas fiables. En ce qui concerne la Pradelle, j'en profite puisque vous mettez le pied à l'étrier, il se trouve qu'on a eu une clause de revoyure au bénéfice de la commune à hauteur de 90 000 euros puisqu'il y avait les calculs qui avaient été faits concernant la collecte des déchets. Et en fait, on a toujours une vision assez prudente de la gestion de la commune, trop prudente peut-être, parce que dans le cadre de la clause de revoyure, la commune a récupéré 90 000 euros. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Monsieur Furent, je vous en prie.
Merci, monsieur le maire. Nous allons voter cette charte parce que, d'une part, c'est une charte et ça n'engage pas à grand-chose. D'autre part, tout ce qui est marqué là est prévu par la loi quasiment, donc c'est juste une opération de communication. Par contre, on ne peut pas dire qu'on partage votre avis sur la transparence de la métropole, parce que les PV de la métropole sont très light et sont mis donc c'est difficile d'avoir des informations de la part de la métropole, comme c'est difficile d'avoir des informations de la part de la commune. Mais nous avons bien noté qu'à partir du moment où le maire était informé, il n'y avait plus de sujet de transparence pour tous les prétendants, puisque le maire connaissait les réponses et que ça suffisait. Merci.
S'il n'y a pas d'autre intervention, je vous propose donc de passer au vote de cette charte. Qui est contre ? Charte, pardon. Je pense au voyage déjà. Oui, moi, je vais loin, charte, Orléans. Donc on était où on avait voté en fait. Donc qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. Donc la question numéro 3, ça concerne le pacte financier qui a été évoqué tout à l'heure. Il m'a volé la vedette, monsieur Meurier, il a parlé avant moi. Le pacte financier et fiscal de la métropole avec ses communes. Donc là, c'est un peu ce qui a été expliqué tout à l'heure. L'idée de ce pacte, c'est d'expliquer dans quelle mesure la répartition financière se fait entre la métropole et la commune dans un certain nombre de domaines qui sont évoqués dans le document. La recherche de sustainabilité sur la partie TPM comme celle des communes a été clé dans cette, je vais presque dire une négociation parce que c'était une discussion entre les maires pour la métropole. Donc le partage des recettes concernant la taxe d'aménagement. Le partage de recettes concernant la taxe sur la consommation finale d'électricité, le produit des amendes de police, la mise en place d'une fiscalité au titre de la compétence GEMAPI, les reversements au titre de la péréquation, la dotation de solidarité métropolitaine, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le transfert de compétences et la mise en place d'une solidarité horizontale au travers d'une mutualisation des moyens et des services, l'attribution de compensation, la mutualisation des moyens et des expertises. Voilà, donc là c'est un document qui a été élaboré par TPM qu'on vous met aux voix aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, je vous en prie, monsieur Meurier.
Financier et fiscal entre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et les communes membres. Petit 1, les objectifs du pacte financier et fiscal. Déterminer les règles de partage des nouvelles recettes fiscales sur le territoire. Bon, question, de quelles nouvelles recettes fiscales sur le territoire est-il question ou va-t-il être question à l'avenir ?
L'avenir, je ne peux pas tout prévoir. Il y aura peut-être on a parlé tout à l'heure, la suppression de la taxe d'habitation. On ne sait pas ce que ça va être. Il y aura peut-être une taxe, je ne sais pas, ce sera peut-être au niveau des communes, au niveau intercommunal ou peut-être au niveau national. Ce sera peut-être une taxe à répartir. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. On va voir ce qui se passe, mais aujourd'hui, il y a une forme de difficulté à prévoir la mise en place de nouvelles taxes ou ce qui va remplacer la taxe d'habitation, si quelque chose remplace la taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à répondre précisément à la question. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de nouvelle taxe qui est prévue. Ça, je peux vous l'assurer. Et la deuxième question, c'était tout. Bah, voilà. Monsieur Fior.
Merci. On va voter également ce joli document, mais il n'y a vraiment rien dedans, là, pour le coup. C'est des bonnes intentions. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on aurait aimé avoir une charte de l'ensemble des maires de la métropole qui s'engagent à ne pas toucher aux taux qui ont déjà été votés pendant la durée du mandat. Ça aurait eu du sens. La réalité, c'est quoi? C'est que vous-même, vous avez augmenté la taxe d'habitation en votant à TPM, en vous gardant bien, en annonçant ici toujours que vous ne la touchez pas, que les impôts n'augmentez pas. Mais par contre, quand vous êtes à TPM, vous augmentez la taxe d'habitation. Vous avez voté la GEMAPI, nouvelle taxe qui est rentrée en application là. Donc quel sens ça? C'est, je suis dans la commune, je n'augmente pas les impôts, je suis vice-président de métropole, j'augmente les impôts. Bon, tout ça pour au final dire je suis contre la baisse de la taxe d'habitation au niveau national parce que je ne sais pas comment elle va être remplacée, alors que vous savez pertinemment qu'elle va être remplacée à l'euro près. Bon. Tout ça manque un peu d'ambition quand même. La métropole, ce n'est pas un établissement qui a vocation à augmenter systématiquement les impôts des Pradétans et des autres habitants de son territoire, uniquement pour pouvoir afficher des excédents dans tous les budgets qu'elle gère. Moi, j'ai un peu de mal avec cette vision-là. On va y revenir. Vous allez nous présenter en 2020, dans un souci de transparence, comme vous dites, les résultats de l'assainissement, de la taxe des ordures ménagères qui ont eu lieu en 2017. C'est vrai que c'est extrêmement transparent. Hein. Vous allez nous présenter ça dans les prochaines délibérations. On aura l'occasion d'échanger sur le prix des services, sur les taxes qui ont été mises en œuvre, sur l'absence de travaux, sur les résultats budgétaires de ces budgets-là à la métropole. Eh bien, si la métropole, ça consiste à augmenter les impôts en catimini, à gérer des excédents, à être bien prudent, à rester entre soi, on va vers une grande difficulté sur l'ensemble de notre territoire par rapport aux autres métropoles, que ce soit Marseille ou que ce soit Nice. On est déjà très en retard, très loin de ces métropoles-là. S'il n'y a pas une prise de conscience dans ces domaines-là, on aura des difficultés importantes avec notre territoire, avec nos habitants et avec les résultats qu'on est censé porter sur cette métropole. Mais pour vous faire plaisir, parce que c'est une charte qui vaut rien et parce qu'il n'y a rien dedans, on est d'accord et on va voter pour.
Il ne faut pas faire ça pour me faire plaisir, il faut le faire si vous avez envie. Moi, j'ai d'autres façons de me faire plaisir que de voir M. Fior voter pour une délibération, mais ça me fait plaisir. Je voudrais simplement revenir sur votre vision de TPM. Je pense qu'elle est un petit peu erronée, mais c'est vrai que vous ne siégez plus depuis 5 ans. Donc, je crois qu'au contraire, l'ambition de la métropole, elle est là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est passé en métropole. S'il n'y a pas une ambition de rendre le territoire encore plus attractif, je pense qu'il n'y aurait pas eu la décision de passer en métropole. Le territoire de TPM, pour le coup, est de plus en plus attractif, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau des animations, que ce soit au niveau des programmes de voirie qui sont prévus. On voit pas mal de communes qui bougent. La métropole entraîne du dynamisme, pas simplement au Pradet, dans d'autres communes aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de communes qui sont en train de se développer, qui renforcent l'attractivité. Le territoire est de plus en plus attractif. Il y a un certain nombre d'initiatives qu'on est en train de lancer, notamment au niveau écologique, avec une filière hydrogène qu'on pousse beaucoup au niveau de la métropole, des actions en faveur de l'environnement, notamment au niveau du Pradet. On travaille sur un projet européen aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont prises au niveau industriel. Beaucoup de choses, que ce soit au niveau économique, beaucoup de choses faites au niveau de la rade aussi. Le tourisme, j'en ai parlé, des croisières, un dynamisme qui est là. Et pas simplement sur la ville-centre qui est Toulon, au niveau de toutes les communes. Il y a un vrai dynamisme qui est en place. La transparence, elle est là. Je vous invite à venir à un conseil métropolitain. C'est ouvert au public. Donc, vous pouvez venir écouter ce qui se dit. Les rapports sont disponibles en ligne. Moi, je soutiens la création de la métropole. Je pense que je soutiens le président Hubert Falco. Et comme Hubert Falco, je soutiens chacun de ses maires et chacun des équipes municipales en place. Donc, je réfute le fait que la métropole n'ait pas un caractère attractif et dynamique. Bien au contraire, je pense qu'on fait partie vraiment des territoires les plus attractifs de France et qu'on va renforcer cette attractivité dans les années qui viennent. En tout cas, comme vous allez voter pour, on va passer au vote. Alors, qui est contre ? Monsieur Meurier. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Monsieur Fior ? Pour ? D'accord. Merci. Alors, ensuite, nous avons donc la question numéro 4. Et il s'agit cette fois-ci de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l'année 2017. Voilà. Donc ce rapport a été présenté au Conseil métropolitain le 23 novembre, donc on le passe quasiment au plus tôt, donc maintenant. Voilà. Monsieur Paul Moureau.
Bonjour. Donc la note explicative sur la présentation du rapport annuel sur le prix et les qualités du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés pour l'année 2017. Donc, en application de l'article du Code général des collectivités territoriales, chaque commune qui adhère à un établissement privé de coopération intercommunale est destinataire de ce rapport annuel. C'est ainsi qu'en 2017, la collecte des déchets ménagers et assimilés a baissé de 0,9% par rapport à 2016. Donc en passant de 176 550 tonnes à 174 968 tonnes. Le tri du carton, du verre et du plastique a globalement, lui, augmenté. La collectivité enregistre une baisse globale des déchets ménagers et assimilés de 2% entre 2016 et 2017. Et ce résultat peut être amélioré par les mesures de prévention et, entre autres, par les projets de ressourcerie et de recyclerie. Concernant le traitement des ordures ménagères résiduelles, le taux de valorisation énergétique s'élève, lui, à 70% sur les tonnages recueillis en déchetterie. Le taux de valorisation en matière, lui, est de 25%. Donc, le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport qui a été présenté, comme l'a dit monsieur le maire, au conseil communautaire en date du 23 novembre 2018.
Merci, Paul. Monsieur Fior.
Merci. Donc, 23 novembre 2018, on a eu un conseil municipal en décembre, me semble-t-il. Vous auriez pu, vous auriez dû nous le présenter à ce moment-là, dans acte. Sur le fond, monsieur Moreau, quand on lit ce rapport sur les ordures ménagères, collecte et traitement, on s'aperçoit qu'ils sont financés par la taxe des ordures ménagères, qui est une taxe fléchée et qui permet de financer uniquement ce service-là. Le montant de la taxe qui est collectée au Pradé sur l'année 2017, en fonction de ce rapport, s'élève à 1 971 000 euros. L'utilisation de ces fonds par TPM a porté sur 959 000 euros la collecte, 785 000 le traitement. Différentiel, 230 000 euros par an. Donc on surfinance traitement et collecte. Accessoirement, il y a un arrêt du Conseil d'État qui s'appelle Auchan, qui est sorti sur la taxe des ordures ménagères, qui dit que sur le montant de la taxe, si elle est supérieure de 2% par rapport à son utilisation, elle est susceptible d'encourir une illégalité. Je ne veux pas aller sur le terrain de la légalité, je dis simplement qu'il y a 230 000 euros qui sont affectés chaque année en surplus à TPM. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils vont servir ? Première question. Deuxièmement, dans votre rapport, il est écrit, et comme on a parlé de pacte financier et de lissage et de la métropole, il est écrit que les taux, puisqu'on est un territoire métropolitain, et donc normalement on a un service unique sur l'ensemble du territoire, et on est harmonisé, on est mutualisé, et chacun paye la même chose, il est écrit que TPM
va lisser les taux sur 10 ans à partir de 2018. Il l'écrit parce que c'est une obligation légale. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire quand dans le même temps, on écrit que le service sera, entre guillemets, alloti au niveau des 12 communes et que chacune des communes continuera à voter son taux. Comment on peut lisser un taux sur 12 ans pour l'harmoniser et en même temps dire chacune des communes va continuer à voter son propre taux et à avoir son propre service? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux questions? Et la troisième, c'est à supposer donc qu'on lisse ce taux-là sur 10 ans, quelle est la cible qui est retenue? Parce que si je lisse, il me faut une cible. Quel est le taux cible retenu par la métropole? Parce qu'il n'apparaît pas dans ces documents-là. Merci.
J'ai évoqué le transfert, on a déjà évoqué ce sujet. Donc l'idée, c'est de passer en fait sur le taux à 11,5, c'est-à-dire en gros le taux du Pradet. Donc l'idée, c'est de lisser en fait tous les taux au niveau de la métropole. Il se trouve que nous, on est dans un taux moyen. Donc au final, on se retrouvera sur un objectif qui serait a priori aux environs de 11,5%, qui est le taux du Pradet. Il faut savoir que sur le territoire de la métropole, les taux vont de 8 à 16% en fonction des communes, pour plein de raisons. C'est à la fois historique, c'est la façon dont c'était géré. Il y avait des communes qui mettaient plein d'autres choses dans les déchets ménagers, dans cette compétence. Voilà, donc c'est juste historique. Chaque commune gérait sa TOM et puis produisait de la recette et faisait des choses avec, peut-être différentes en fonction des communes. Ça fait partie d'ailleurs des discussions sur les AC, sur les transferts de charges, sur les transferts de produits. Chaque commune a une approche très spécifique de la façon dont il collectait la TOM et dont il dépensait le produit de la TOM. Mais pour répondre à votre question précisément, l'objectif, c'est d'arriver à 11,5 sur une durée de 10 ans. Voilà. Donc la convergence, elle va se faire dans le temps vers ce taux. Et après, c'est un petit peu naturel, parce qu'à partir du moment où on métropolise et on gère des compétences au niveau de la métropole, que ce soit sur ce sujet, sur l'assainissement, sur un certain nombre de sujets, je trouve ça assez légitime en fait que les taux soient les mêmes pour tous les administrés de la métropole. Donc il y aura un lissage, je pense, à terme de tous les taux. Tous les maires ne sont pas forcément en faveur de cette vision, parce que c'est vrai que quand on a des taux plutôt bas, bon, on n'est pas très content de passer 11,5. Quand les taux à 16, on est plutôt content. Mais bon, des fois, il y a des gens qui. Certaines communes perdent sur certains taux, gagnent sur d'autres. C'est le coût du passage en métropole. Et je pense que dans les discussions qu'on a eues, ça a duré un petit moment, le passage en métropole. Et puis je pense qu'il y aura d'autres épisodes dans les années qui viennent. L'idée, ça a été d'arriver à une position d'équilibre entre toutes les communes pour que chacun s'en sorte. Voilà.
Merci pour cette précision. Donc si je vous ai bien compris, en 2028, on aura un taux de TOM à 11,5.
L'objectif, c'est d'arriver aux environs de 11,5. Est-ce que ce sera 11,4? Est-ce que ce sera 11,6? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, ça va dépendre des équilibres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le résultat, il est probant. Aujourd'hui, on fait des économies, c'est un peu l'objectif, hein, on mutualise. On n'est qu'au début de la mutualisation, parce qu'il y a des marchés qui sont en cours. On a transféré des marchés. Donc, quand on transfère un marché, bon, c'est pas parce qu'on transfère un marché qui s'arrête, le marché il continue sur ce qui avait été négocié. Après, on va faire des négociations au niveau de la métropole. On va négocier des marchés au niveau de la métropole avec un poids plus important vis-à-vis des différents prestataires. On va être plus efficient aussi dans notre approche des compétences qui sont transférées. L'idée, c'est d'arriver à plus d'efficience à une plus grande efficacité, un meilleur service public de qualité, à moindre coût. C'est vraiment l'objectif que se donne la métropole.
Et en dehors de votre parole, sur quoi on se base, sur quelle délibération, sur quel élément qui nous prouverait que la cible c'est 11,5 en 2028?
Il faut vous contenter de ma parole. Pour vous, elle vaut ce qu'elle veut. Je pense que moi, quand j'ai une parole, j'essaye de la respecter. Je ne vous dis pas qu'on va être à 11,50. On m'a posé la question. Je pense qu'on sera aux alentours de 11,50. Peut-être un petit peu au-dessus, peut-être un petit peu au-dessous. Ça va dépendre des résultats qu'obtient le service de ce service-là. On va voir. S'il gère très bien, on sera capable peut-être d'arriver en dessous. Si c'est mal géré, ça sera au-dessus. Mais aujourd'hui, les premiers résultats, d'ailleurs, on a récupéré 90 000 euros au sein de la commune. L'objectif, c'est d'offrir un meilleur service public de qualité à moindre coût. On est là-dessus. Je pense qu'on en prend le chemin. Ma parole, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je milite pour qu'on prenne cette direction au sein de la métropole, comme l'ensemble des 12 maires. S'il y a pas, Monsieur Meurier, je vous en prie.
Au-delà des paroles, justement, j'ai une question.
Ça me rappelle une chanson, parole.
J'ai une question terre à terre. Comment fonctionne le ramassage des poubelles de plage? Si je vous pose la question, c'est que je m'y rends régulièrement et j'ai pu constater, et je ne suis pas le seul, que les poubelles sont souvent saturées et que les déchets se répandent au sol, s'envolent et se retrouvent dans la nature. D'accord. J'ai aussi, par rapport à ce rapport, enfin, je sais pas, il n'est pas question, est-ce que par exemple vous avez des indicateurs sur les dépôts sauvages? Parce que par exemple, je sais qu'il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, en direction de la garde, pas très loin de la gare. Voilà.
Vous le faites déjà rêver, on est déjà en état avec vous. Non, mais c'est sûr que c'est un gros sujet. On est une station balnéaire, on veut renforcer notre activité en cours d'année en faisant des animations de qualité de plus en plus nombreuses. On veut bien sûr aussi la saison touristique, c'est un moment important de la vie de la commune. Et bien sûr que dans cette vie de la commune importante, cette vie touristique de la commune, l'entretien, la propreté des plages, c'est un élément qui est essentiel. Et on est très attentif, depuis que nous sommes élus, à renforcer l'attractivité de notre commune au travers de la qualité qu'on est capable d'offrir à tous les touristes et auprès des temps aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on s'oublie, on aime bien aller à la plage. Vous êtes utilisateur de la plage, je crois que tout le monde autour de cette table est utilisateur des différentes plages, des infrastructures balnéaires, on est bien content. Donc on a mis, depuis qu'on est élu, on a vraiment mis un soin particulier à améliorer l'accès aux plages. On a mis en place un glacier qui rend service aux grands-parents, aux parents, on peut y aller avec les enfants. On est en train de travailler sur un projet pour installer des engins de musculation, des engins de sport au niveau de la Garonne. Donc on est vraiment dans cette logique de redonner encore plus d'attractivité à notre très belle commune. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Mais bien sûr, on ne va même pas voter, on prend acte. Voilà. Ah oui,
bah oui.
Mais c'est marqué, oui, je vais relire la conclusion, Monsieur Fior. Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport, voilà, qui a déjà été présenté le 23 novembre 2018. Bon, on a pris acte. Merci, Madame Baca. Donc, question numéro... C'est pas vous, Gagné, on prend acte? Donc, question numéro 5, toujours Paul Moreau, ça concerne cette fois-ci l'assainissement.
Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l'assainissement sur l'exercice 2017. Donc, le conseil municipal de chaque commune qui adhère à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport comme le précédent. Il porte sur la compétence assainissement, exercée par la métropole au titre de la collecte et du traitement des eaux usées d'une part et l'assainissement non collectif d'autre part. Ces indicateurs caractérisent le prix et la qualité du service public d'assainissement rendu pour l'année 2017. Ils témoignent d'une gestion de qualité de service d'assainissement sur l'ensemble du territoire et d'un niveau d'investissement soutenu sur les stations d'épuration sur les 1274 km de réseau public de collecte. Donc le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport qui a été présenté également au conseil communautaire le 23 novembre 2018.
Merci. Monsieur Meurier.
Merci. Alors, page 21 sur 36, il est présenté les indicateurs de performance du service. Il est écrit que l'indice de performance
est compris entre 0 et 100. La moyenne nationale est de 57, le Pradet est à 29, Toulon est à 103. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Merci.
Alors, c'est un... Ben, je crois que... Non, mais ce qui... Non, mais l'assainissement, c'est une bonne question. Il y a des travaux qui sont en cours. C'est un problème qui dure depuis un petit moment, mais je crois que l'objectif, effectivement, c'est d'être encore meilleur sur cette analyse de satisfaction. Et je pense que là, le passage en métropole va permettre justement d'améliorer l'efficacité, même si l'assainissement n'a pas été transféré d'hier. Mais voilà. Donc effectivement, écoutez, je pense qu'on est conscient du fait qu'il faut améliorer cet indice, et on va tout faire pour que ça arrive. Après, l'indice, il ne s'est pas dégradé en 4 ans.
Merci, monsieur le maire. Bon, on touche aux limites de l'exercice, là, parce que il y a les belles déclarations, et puis au bout du bout du bout du bout, il y a la réalité des faits. L'assainissement, il a été transféré en 2009. La loi prévoit l'harmonisation des taux de l'assainissement sur une période de 10 ans. On est en 2020. Qu'est-ce qu'on voit? 2019, hein. Qu'est-ce qu'on voit? Que le Pradet avait le taux le plus élevé. Et ça, vous n'y êtes pour rien. Ni nous non plus, c'était Roland Joffre. Ah non, pas sur l'assainissement. Pas sur l'assainissement. On avait le taux le plus élevé et la cible, c'était que les autres nous rattrapent. En réalité, qu'a-t-il été décidé ? Une cible encore plus élevée, donc ce qui fait que on a subi une augmentation, alors même que d'une part on avait le taux le plus élevé et d'autre part on avait un service et on était largement excédentaire, et troisièmement les autres ne nous ont pas rattrapés, ce qui montre qu'il y a encore énormément d'écart, et derrière on a un service, comme vous avez pu le relever, qui n'est pas au niveau des attentes, notamment sur l'assainissement collectif sur certains domaines et sur l'assainissement non collectif encore plus. Alors que le budget métropolitain est largement excédentaire sur ce domaine-là. Alors, on avait une question à vous poser sur l'assainissement non collectif, sur le périmètre de l'AFU. Quand est-ce qu'on aura un zonage? Quand est-ce qu'il y aura des obligations pour avoir un raccordement, parce que je rappelle que normalement quand une habitation est autorisée, normalement elle est raccordée au réseau d'assainissement collectif, normalement, pas forcément, mais normalement, et quand vous avez un budget assainissement collectif, vous avez une obligation de fournir le service d'assainissement collectif. Il n'y a pas d'obligation dans le temps, mais vous avez une obligation de gérer ça dans une zone et d'indiquer aux usagers quand est-ce qu'on pourra faire leur raccordement. Le raccordement, il n'est pas pour faire plaisir à l'usager proprement dit, il est pour éviter les grandes difficultés qui sont occasionnées par l'absence de raccordement. Donc c'est d'intérêt général que de raccorder le maximum d'habitations. Je ne vous mets pas en accusation sur le fait qu'elles ne sont pas raccordées. Vous avez pris une situation qui était telle qu'on l'a prise, et il n'y a pas eu d'évolution sur le sujet. Sauf que la compétence, c'est quand même la compétence TPM. Et donc, qu'il n'y ait aucun mouvement depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans sur ce domaine-là chez nous, ça commence à poser une problématique, alors même qu'il y a des excédents budgétaires, alors même qu'il y a des équipes, alors même qu'il y a une professionnalisation. Donc sur ces deux domaines-là, j'aimerais avoir votre avis sur ces éléments-là. Merci.
Ben, mon avis, il est en partie partagé, parce que bon, vous avez parlé de collectif, de non-collectif. Bon, sur le collectif, il y a déjà un gros projet de rénovation. Je crois que M. Parent est au courant. Il y a un gros projet pour remettre une pompe de grosse capacité. Je n'ai plus la dimension exacte de la pompe, mais c'est 400 m3 au lieu de 90. Donc, les services de TPM y travaillent. Il y a les premiers appels d'offres qui ont été lancés. Il y a aussi toute la... Le réseau d'assainissement, en fait, il y a la piste cyclable, quasiment pour faire court. Hein. Donc ça va à la station du Pouvrel. Ils vont refaire toute la canalisation qui part du Pouvrel jusqu'à la pompe qui va passer de 90 à 400 mètres cubes. Et la pompe, elle est située en gros à côté de la déchetterie actuelle. Donc voilà, l'idée, c'est de multiplier par 4 la capacité de cette pompe de relevage et puis revoir les canalisations. On sait qu'on a un problème qui est là. Après, ça va à la vitesse des marchés publics. Il y a aussi un problème, c'est que pendant qu'on va refaire toute la canalisation de la piste cyclable, il va falloir trouver une solution aussi pour la piste cyclable. Donc on travaille sur ce sujet, ce sont des sujets qui sont longs. Vous m'avez posé aussi une question sur le rattrapage. Ben, le rattrapage, on avait déjà évoqué la question. Voilà. Donc moi, j'ai milité au sein de la métropole pour qu'il y ait, que le rattrapage qui était déjà annoncé depuis de moult années, je pense que vous en savez quelque chose, n'avait pas été suivi des faits. C'est fait, ça a été voté, je ne sais plus si c'est au dernier, mais sinon à l'avant-dernier conseil métropolitain. Ça a été annoncé à tous les maires en bureau communautaire, ça a été voté au conseil métropolitain. Il y a bien un rattrapage de la redevance de la taxe qui va être faite, et on se cale sur la taxe du Pradet, en fait. Donc voilà, ça veut dire que donc les communes qui étaient en dessous ne sont pas très contentes. Moi, je trouve que c'est naturel, j'en parlais tout à l'heure sur les déchets, c'est un petit peu naturel que quand il y a une logique métropolitaine qui se mettent en place, c'est un peu normal que chacun paye le même niveau de taxe. Donc il y a un lissage qui est prévu sur les, je crois que c'est 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, je pourrais aller dans les détails, mais en tout cas, il y a une délibération qui est passée à la métropole là-dessus, je pourrais vous la retrouver si vous voulez. Alors, j'arrive pas à lire d'ici, vous savez, je me fais un petit peu vieux, j'ai du mal, c'est écrit un peu petit pour moi. Et juste, non, je vais poser des questions, je vais quand même finir. Après, une dernière question, c'est le nom collectif. On partage le constat. On partage le constat, le nom collectif, c'est vrai que c'est un problème sur le Pradet, pas qu'au Pradet, mais peut-être particulièrement au Pradet. Il y a des zones qui ne sont pas raccordées. Alors il y a une règle en fait pour le nom collectif, c'est que si on est à moins de 50 mètres, on a l'obligation de se raccorder sur le collecteur, c'est 50 mètres. Et au-delà de 50 mètres, on a le droit d'avoir un assainissement non collectif. Mais il faut que ça soit aux normes. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de résidences, notamment de maisons, hein. C'est plus rare pour les immeubles parce que les syndics, donc c'est plutôt dans les normes, mais il y a beaucoup de maisons individuelles qui ne respectent pas le fait de s'être mis aux normes pour leur assainissement individuel non collectif. Et d'ailleurs, on a déjà entrepris des démarches puisqu'on a fait des visites d'assainissement justement individuel avec des demandes derrière de remise aux normes. Ceci étant, c'est vrai que le sujet... sur les secteurs qui ont été évoqués, il y en a d'autres que j'ai en tête, comme je ne vais pas mettre le feu, je ne vais pas les citer, mais il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il n'y a pas de raccordement à moins de 50 mètres, et ça pose des problèmes, pas simplement aux résidents, parce que c'est jamais agréable d'avoir une pompe de relevage, ça coûte de l'argent, c'est pas toujours efficace, il faut la nettoyer tous les 6 mois ou tous les ans, donc l'idée c'est d'essayer de raccorder le maximum d'habitants au réseau collectif, mais là c'est pareil, ça fait des gros problèmes, d'abord c'est des sujets, ça coûte beaucoup d'argent, ça pose, on voit dès qu'on fait des travaux de voirie, on en fait pas mal, il faut défoncer la route, il faut faire des trous, il faut poser des canalisations, c'est jamais des sujets très simples pour faire des études, donc on le fait, on l'a fait sur l'Artaude, on l'a fait sur un certain nombre d'endroits où on a refait de la voirie, systématiquement on a repris les réseaux, alors bien sûr pluvial, mais aussi d'assainissement quand c'était nécessaire et quand c'était possible, de manière à améliorer l'indice dont vous parlez tout à l'heure. L'indice est de 2017, j'espère que 2019, 2020 et au-delà seront encore meilleurs, de manière à vous montrer qu'on a fait un gros travail sur ces sujets d'assainissement. Mais sur ce sujet, comme sur les autres, on ne dort pas. On est au monte au créneau, on est là, on est présent, on est conscient du problème et on fait tout ce qu'on peut pour améliorer l'indice. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ben on prend acte du rapport aussi. Voilà, merci. Question numéro 6, ça concerne le SCOT maintenant, donc un sujet qui dépasse la métropole, puisque c'est un sujet métropolitain et surtout territorial. Monsieur Christian Garnier.
Oui, bonjour. Merci, monsieur le maire. Donc, en 2012, le syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée décidait d'engager une procédure de révision du schéma de cohérence territoriale approuvé en 2009 pour élaborer le chapitre individualisé du SCOT. Valant schéma de mise en valeur de la mer, réflexion qui demandait d'innover dans un champ de planification peu expérimenté et nécessitant de dépasser les clivages entre terre et mer. Par délibération du comité syndical du 26 octobre 2018, le projet de schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée a été arrêté. Ce projet a fait l'objet d'une concertation importante permettant d'une part au public non seulement de s'approprier les enjeux du SCOT et de son territoire, mais aussi de s'exprimer dans le cadre de cette procédure de révision. D'autre part, de prendre en compte également les observations des communes, notamment celles du Pradet, fortement impliquées dans l'élaboration de ce document. La version présentée a pris en compte les observations de la commune du Pradet et les amendements qui ont été proposés, en particulier en matière de positionnement de la commune dans le territoire du projet du SCOT, de problématiques environnementales présentes sur le territoire,
l'identification des espaces agricoles et naturels communaux à préserver, l'identification des espaces littoraux sensibles définis dans le chapitre relatif à l'application de la loi littorale. Enfin, l'identification des enveloppes urbaines à l'horizon 2030, le maillage complet continu d'aménagement dédié au mode actif, de déplacement actif, identification des sites bâtis d'intérêt paysager faisant partie du patrimoine communal. Demander au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de SCOT Provence Méditerranée. Arrêté. Monsieur Meurier.
Je vous mentirais si je vous disais que j'ai lu les 1037 pages du SCOT. Je souhaitais aussi dire quelque chose. D'ici 2030, la population métropolitaine devrait augmenter de 30 000 habitants. Le Pradet en prendra une part. Nous constatons tous une saturation du réseau routier, notamment sur la première DFL, avec environ 18 000 véhicules par jour l'été, avec les touristes, il est vrai. Est-ce que sur cette problématique, le SCOT suggère des solutions? Merci.
Habitants, un maintien de population avec un taux d'accroissement de 0,5% de population. C'est ce que nous avions retenu en 2017 lors de l'élaboration du PADD sur la commune du Pradet qui devait servir à la réalisation de la révision générale du PLU. Donc ces tendances ont été prises en compte dans le cadre du SCOT pour la commune du Pradet. Elles ont été prises en compte et ça correspond à notre participation dans ce SCOT à l'augmentation démographique, à la visée d'augmentation démographique de la commune. En ce qui concerne la circulation et les transports, il est certain que la métropole va jouer un rôle très important puisqu'il y a un schéma de déplacement urbain qui a été proposé et qui est en cours de réalisation par tranche. Ce schéma de réalisation devrait permettre l'allègement de la circulation au moyen de la réduction du nombre de flots automobiles. Je vous rappelle que quand même les enquêtes de circulation qui ont été faites, et notamment sur l'étude de déplacement de circulation qu'on a faite il y a 2 ans sur le Pradet, démontrent qu'on a une stagnation, voire une régression du nombre d'automobiles sur le secteur de la traversée du Pradet principalement. Si les réseaux de transport public s'améliorent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous, puisqu'on est dans un système un petit peu secondaire, mais qui devrait s'améliorer, si ces systèmes s'améliorent, on aura une réduction de la circulation, notamment en la direction des grands centres et des zones commerciales, qui devraient permettre de maintenir une circulation suffisante suffisante sur le Pradet. Il est certain que quand les villes qui sont environnantes font un PLU, qu'ils affichent des intentions en matière d'habitat, ça aura un effet important sur la situation. Et il n'est pas impossible que dans le cadre de la métropole, ce plan de déplacement urbain soit révisé et adapté pour répondre à ces nouveaux besoins. Aujourd'hui, c'est une image, c'est une photo à un moment donné.
D'autres questions, Monsieur Fior?
Merci. J'aurais aimé que M. Garnier nous dise à très grands traits quelles modifications précises sur la commune du Pralay par rapport à l'ancien SCOT, concrètement. Ça pouvait apporter ce nouveau SCOT, mais à grands traits, hein, simplement. Et puis, ensuite, j'avais deux questions plus précises. L'une sur la zone de la grenouille. Est-ce que le SCOT arrêté là empêche toute construction sur la zone de la grenouille? Oui, non, je ne sais pas, vous me direz. Deuxièmement, sur le projet du CEFCA, puisque ce SCOT-là protège les façades maritimes, protège des espaces boisés classés, protège le littoral, la loi littorale, etc. Quid du projet que vous avez sur le CAPCA vis-à-vis de la compatibilité avec ce SCOT-là, même si je l'ai lu et que j'ai déjà eu mes bonnes réponses. Bon, et enfin, une question à Monsieur le maire. Puisque lors de votre cérémonie des vœux, vous avez indiqué que quand un maire coupait un arbre, c'est qu'il était malade, vous envisagez d'en couper 2000 m² dans votre projet sur le CEFCA. Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a 2000 m² d'arbres malades au CEFCA? Merci.
Oui, alors en ce qui concerne Le SCOT apporte globalement, cette révision du SCOT apporte plusieurs choses. D'abord, la mise à jour par rapport au Grenelle 2, c'est-à-dire avec les trams, les déplacements, etc. Donc on a un certain nombre de cadres réglementaires qu'il a fallu adapter au travers de ce SCOT. Et deuxièmement, c'est l'aspect maritime du SCOT, qui n'avait pas été pris en compte dans le SCOT initial. Et l'association donc de ce volet maritime a nécessité beaucoup de travail de la part des commissions pour intégrer des orientations maritimes sur toute la frange et la rade et toute la frange littorale des communes qui sont adhérentes. Alors, si vous voulez rentrer un petit peu dans quelques détails, par exemple, sur les projets d'aménagement et de développement durable, le PADD du SCOT retient, par exemple, en plus de ce qui existait par rapport au précédent, des fixations d'objectifs démographiques. Ça a été fixé. C'est 0,4% de l'augmentation de la population sur le SCOT. Pour anticiper les mutations économiques, sociales et environnementales, évidemment, parce qu'il fallait fixer une règle d'occupation, de densité de population pour pouvoir décrire les équipements qui devaient s'y attacher. On a constaté un fort ralentissement démographique sur cette période-là, contrairement à la période précédente où il y avait une augmentation démographique. Donc le SCOT s'adapte également à ces nouvelles données. L'orientation, donc, c'est 2500 habitants et 1000 emplois par an en plus sur les besoins exprimés. Les impératifs environnementaux, bien sûr. Révolution numérique, vieillissement de la population, tenir compte dans les nouveaux calculs de vieillissement de la population, et enfin les nouvelles exigences des habitants par rapport à leur cadre de vie, méthode d'habitation, modèle d'habitation, nouvelle mobilité également. L'équilibre également, ont été retenus l'équilibre préservation et valorisation du territoire, en particulier sur le littoral. Les objectifs, eh bien, on a rajouté aux objectifs fixer des axes de développement beaucoup plus précis sur le SCOT, et également, pour le cadre de vie, relever le défi de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Ce sont deux choses importantes, puisque déjà, au niveau climatique, une enquête climat a été faite, d'ailleurs, sur le Pradé. Le Pradé a été pris comme modèle d'une enquête climatique par rapport à TPM, et ça, ces éléments vont rentrer en compte dans des prescriptions futures sur la méthode d'urbanisation des centres-villes. Et notamment, on s'est aperçu au cours de ces enquêtes que chaque fois qu'on a des massifs de végétaux en centre-ville, on a une très forte baisse de température en été et que ça contribue d'une façon très efficace à une stabilisation de la température dans ce changement climatique. Ensuite, l'objectif 4, c'est planifier un développement qui compose avec les risques et qui assure la gestion durable des ressources. document d'orientation, donc arrêté des objectifs fixés de consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, vous les avez retrouvés si vous avez regardé les cartes, les coupures d'urbanisation maintenues dans le cadre de la loi Littoral, et enfin le schéma de mise en valeur de la mer, ce que je vous disais tout à l'heure, avec les mesures de protection des milieux littoraux et marins, préciser les vocations et les usages des milieux littoraux et marins, leurs usages, non seulement les protéger, mais aussi regarder leur destination, et définir les équipements portuaires, gestion durable du trait de côte, enfin, puisqu'on a un problème de submersion marine qui s'annonce. Le projet du SCOT est divisé par deux la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au regard du rythme annuel. Disparition, les coupures d'urbanisation maintenues, suppression des possibilités de construire dans des zones à risque ou des zones sensibles, et enfin la prise en compte des risques de la transition énergétique, amélioration de la qualité des espaces publics, interface terre-mer, les sites bâtis d'intérêt paysager, prise en compte renforcée du risque d'inondation, le GEMAPI d'ailleurs sur la partie toulonnaise, et gestion du pluvial renforcé. Voilà un petit peu les points qui font la différence avec le premier SCOT. Alors, sur le Pradé, on a veillé bien sûr à ce que dans ce SCOT, on soit bien inscrit dans le PADD que nous avions retenu, donc en 2015, c'est-à-dire protéger et valoriser le cadre naturel et agricole, là c'est figé, renforcer le centre-ville, l'identité des quartiers, là aussi respect de l'identité, de la densité des quartiers, maintien, promouvoir l'économie et l'emploi, conforter l'orientation vers un tourisme à l'année, là aussi c'était des éléments qu'on a transmis pour la réalisation de cette mise à jour du SCOT.
Pour ces éléments de réponse, néanmoins j'avais deux questions précises. L'impact de ce SCOT-là sur la zone de la Grenouille et sur le CEFCA.
Donc, en ce qui concerne la Grenouille, effectivement, suppression de la zone d'urbanisation qui était en instance précédemment. On est rentré aujourd'hui dans une zone du fait d'une décision de justice. On est revenu au RNU sur une partie de cette zone-là. Sur le reste, le SCOT a écarté toute possibilité de transformation des zones, surtout à cause des zones sur les secteurs humides, des secteurs protégés. Et sur la partie qui intéresse votre question, c'est un statu quo, pas d'urbanisation pour l'instant.
Pas d'urbanisation pour l'instant, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la zone n'est pas retenue au SCOT comme une extension de l'agglomération. Vous savez que ce sont des cartes schématiques,
ouais,
dans lesquelles il y a une pixelisation avec des zones qui sont des zones d'extension d'agglomération, des zones qui ne le sont pas. Et aujourd'hui au SCOT, ce n'est pas retenu comme une zone d'extension d'agglomération.
Donc, l'urbanisme n'est pas de ma compétence. Donc, si ma question est idiote, je m'excuse par avance, mais est-ce que ça veut dire que dans le cadre du PLU métropolitain, il n'y aura pas de droit à construire sur cette zone-là, partiellement ou totalement? Parce que au départ, quand la décision de justice est tombée sur la zone de la Grenouille, c'est parce que l'étude d'impact n'avait pas été assez précise. Ça, c'est la décision de justice. On est tombé dans le RNU, ok, très bien, mais qu'est-il prévu pour cette zone-là? Est-ce que c'est une zone qu'on va remettre naturelle et où il n'y aura jamais, sauf changement de PLU, de droit à construire? Ou est-ce que c'est une zone où il y aura tout ou partie de droit à construire?
Alors, tout ça, ça sera au niveau du PLUI, de effectivement proposer éventuellement des adaptations plus précises, parce qu'un SCOT, c'est tellement généraliste, c'est tellement imprécis que ça ne traite pas un secteur bien particulier. Au niveau du PLUI, il y aura probablement un moyen de traiter ce secteur suivant la volonté, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, la position de la DDTN sur ce secteur est très claire. Ils ont refusé un projet d'aménagement en évoquant que le secteur n'était pas urbanisable, tout simplement pour eux, que deuxièmement, il y avait des risques géologiques majeurs, et que troisièmement, c'était un espace sensible qu'il convenait d'être très prudent et de protéger. Donc, il y a très peu de chances que le PLUI de la métropole retienne ce secteur comme un secteur à forte urbanisation.
Eh bien, ça nous va très bien, mais encore fallait-il le savoir. Voilà. Donc, merci pour cette réponse claire sur la zone de la Grenouille. Si on pouvait avoir la même sur le CFK.
Pour le CFK, rien n'est changé, monsieur Fior. C'est votre PLU qui s'applique. C'est le règlement de votre PLU qui s'applique. La seule chose... les services fiscaux de l'État, qui semblent avoir besoin d'argent, veulent à tout prix vendre la parcelle. La propriété, on le comprend, rien de changé non plus. Mais pour vendre la parcelle, compte tenu de l'échec de leur première mise en vente, ils ont fait venir des spécialistes, deux spécialistes, un juridique, un grand juriste parisien spécialiste de la loi littorale. Ils ont fait venir un bureau de paysagistes qui travaillent pour l'État pour donner leur avis sur les conditions d'aménagement réalistes du secteur pour que la vente puisse se faire à des conditions satisfaisantes. Là-dessus, donc, le paysagiste, puisque on va y arriver, hein, vos arbres, le paysagiste a fait une étude, il a regardé, il a dit là, il y a des espèces d'arbres très intéressantes, là, il y a des arbres qui sont des pins qui ont envahi simplement des vieilles restanques et qui n'étaient pas d'origine, ça présente moins d'intérêt, là, il y a des espèces à conserver. Et il a fait un programme d'aménagement global dans lequel il a dit aux services fiscaux de l'État, voilà ce que vous pouvez faire et voilà ce que vous ne pouvez pas faire, avec la mise en valeur, bien sûr, des parties historiques, puisqu'on a ce vieux fortin du Cap-Garonne qui date de 1800 et quelques, 1860, je crois. Et donc, ce fortin est à réhabiliter, à remettre en valeur. Il y a des remblais qui sont enlevés, il y a un certain nombre de choses à faire. Et pourquoi ces pins dans ces restanques? Parce que le paysagiste dit qu'il faut supprimer les volumes de maçonnerie qui sont sur la crête, à part un ou deux bâtiments qui peuvent être réhabilités d'une façon intéressante. Les autres, ils présentent une architecture déplorable, qui est là en plein milieu sur la vue, sur la rade. Ceux-là, il faut les démolir, mais pour les démolir, il faut pouvoir reconstruire en dessous. Donc, on construit en dessous de la ligne de crête, dans cette zone de restanque, pente nord, qui n'apportera pas une perturbation sur la vision du site et la qualité du site. Voilà l'avis des paysagistes, grands spécialistes désignés par le ministère, et qui sont venus sur place, qui ont travaillé, qui ont fait des rapports, etc. Voilà. C'est tout.
Merci pour ces précisions. Je vais y revenir sur ces précisions, mais puisque vous avez lancé un appel à projet, que cet appel à projet avait une échéance, me semble-t-il, vers
15 janvier.
Voilà, merci. Donc, j'ai une question. Avez-vous reçu des offres? Le ministère de l'économie et des finances a-t-il reçu des offres?
Alors, pour la petite histoire, avec le précédent gouvernement, on avait une relation quasiment continue avec les services de l'État, de la marine et les services des domaines. On a fait plusieurs réunions pour mettre au point ces choses-là, justement, pour essayer, nous, on disait ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas pour la commune, et la marine, enfin, les services fiscaux disaient, ben voilà, nous, notre point de vue, c'est celui-là, etc. Et ça avait conduit à cette fameuse étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a abouti à quelque chose d'acceptable, à notre avis, pour la commune du Pradé et pour les services fiscaux. À partir du moment où on a un nouveau gouvernement qui est en place, on n'a plus été au courant de rien. Il n'y a plus de réunions. On a essayé de relancer des réunions. On n'a plus de réunions. Et on a appris, qu'ils allaient faire un appel à projet. Ils nous ont même pas, informés. On l'a appris qu'ils allaient faire un appel à projet avec une date d'échéance, enfin un appel à candidature d'abord, avec une date d'échéance au 15 janvier. Et donc on leur a écrit pour leur dire, écoutez, on est commune du Pradé, un jour c'est nous qui devrons donner un permis de construire, il vaudrait mieux nous mettre dans la boucle pour qu'on soit consulté sur le choix des candidats qui seront retenus. Voilà, on en est là. J'ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit.
Alors, vous nous avez tout dit, donc si vous nous avez tout dit, merci de votre franchise, M. Garnier. Néanmoins, votre présentation ne me semble pas tout à fait juste. D'une part, vous commencez par dire, c'est pas nous, c'est les services fiscaux qui ont besoin d'argent et qui ont monté ce projet, etc. Ensuite, vous nous dites, oui, mais cet appel à projet, il était quand même dans une vision partagée. Et il était acceptable pour la commune. Je vais défendre un petit peu mon administration. Elle n'a pas l'habitude de faire des projets à la place des communes qui sortent de l'esprit des gens, des services fiscaux. Ils ne font pas de l'urbanisme, ils ne définissent pas les politiques économiques, ni urbaines, ni urbanistiques. Donc, tout ça, c'est en lien avec les services de la commune. C'est tellement en lien que vous nous avez fait délibérer sur le sujet et que l'appel à projet, vous nous l'avez vous-même expliqué dans cette séance. Bon, donc, on va être clair, c'est un projet qui était porté par vous-même et l'État, que vous aviez accepté. Bon, vous nous dites maintenant, l'appel à projet, on n'a pas été informé, admettons. C'est un peu dommage pour la commune, mais admettons. La question que je posais, c'est est-ce qu'on a eu des offres? Vous ne m'avez pas répondu. Donc, ou vous savez qu'il y a des offres, ou il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais la question que je pose, c'est, premièrement, avons eu des offres? Ensuite, habiller le système en disant, ouais, il y a un paysagiste, un spécialiste de la loi littorale à Paris, entre guillemets, SIC, Paris et la loi littorale, bon, qui vient nous expliquer que la vision sera beaucoup plus belle de la mer si on enlève le bâtiment et qu'on le met côté terre. Ben, si, si, c'est de la rade, la crête, c'est la mer. Donc, côté rade, donc c'est, on est dans l'eau. Non, mais attendez. Si on baisse le terrain, M. Garnier, je connais quand même bien le site puisque j'y habite à proximité. Si on baisse le bâtiment et qu'on le met en infériorité, effectivement, de la mer, on ne le verra plus. Par contre, de la terre, quand on descend la Gavarès, on va bien le voir. Et si on enlève 2000 m² d'espace boisé, là, pour le coup, on va très bien le voir. Parce qu'il sera bien. Aujourd'hui, il y a les pins que vous estimez devoir couper qui protège ce bâtiment et on ne le voit pas, mais demain on verra bien la zone si tout est défriché. Bon, donc vous connaissez notre point de vue là-dessus. Moi j'ai deux choses. Premièrement, avez-vous eu des réponses? Y a-t-il des candidatures? Après que vous êtes associé, pas associé, on le regrette, mais c'est entre guillemets votre responsabilité, votre problématique de dirigeant. Et deuxièmement, la question à monsieur le maire, est-ce que le grand paysagiste de Paris a dit que ses pins étaient malades? Parce que sinon, il faudrait ne pas les couper. Merci.
Décidément, vous avez bien aimé ma séance de vœux. Il faut que je refasse l'année prochaine et les années suivantes. Donc, simplement pour le CFCAB, on est très loin du SCOT. L'objectif, c'est vraiment de donner un avis favorable au SCOT. Le CFK, c'est un des points, c'est identifié dans le SCOT comme un endroit remarquable qu'il faut mettre en valeur. Voilà. Ceci dit, on ne va pas ne pas répondre, et puis après on passera au vote, parce qu'il y a encore des délibérations. Mais je crois que Christian vous a tout dit, il a tout résumé. Bien sûr que c'est un projet qui est partagé par la collectivité, on l'assume complètement. Je pense que c'est l'endroit qu'il faut mettre en valeur. Je pense que la commune a intérêt de mettre ce secteur en valeur. Oui, il y a des réponses. Il y a pas mal de groupements qui se sont manifestés, en tout cas auprès de la commune. Alors après, On n'a pas de discussion au quotidien avec eux, donc je ne sais pas qui finalement a déposé un dossier. À ce stade, moi, je n'ai pas eu de réponse, en tout cas, pas de notification officielle de la part du ministère. On espère qu'on en aura. Il y a des gens qui sont venus nous voir en disant qu'ils avaient l'intention de répondre. Alors, il faut savoir que dans la première phase, c'était simplement un appel à manifestation d'intérêt. Donc, il fallait juste manifester son intérêt pour répondre. Donc, j'imagine que sur le premier barrage, ça va être de sélectionner, et j'espère qu'on fera partie de la sélection. J'imagine que le ministère ne va pas nous laisser de côté sur le sujet, parce que de toute façon, ils auront besoin de nous pour modifier éventuellement le PLU s'il y a besoin. Mais l'idée, c'est bien de travailler avec eux main dans la main sur la sélection des candidats. Donc, des gens ont répondu, lesquels, je ne sais pas qui au final a répondu à l'AMI, à l'appel à manifestation d'intérêt, il y en aura. Ça ne sera pas un projet précis à ce stade, ça sera la deuxième étape. Il y aura une première sélection qui sera faite avec des projets. Il faut savoir aussi que les gens auront la possibilité dans le temps de revenir. Donc même quelqu'un qui n'a pas soumissionné pourra peut-être revenir s'il a un beau projet, pourquoi pas. L'intérêt de la collectivité, en tout cas du Pradé et de la métropole, c'est d'avoir un bel endroit mis en valeur. Aujourd'hui, il y a des pins, des arbres qui poussent dans les bâtiments. Je pense que c'est pas très... il n'y a pas de gros intérêt. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ce site en valeur pour que ça rende service au plus grand nombre, et notamment le sentier littoral. Enfin, il y a pas mal de sujets sur le CFK. Ce n'est pas l'objet du SCOT, mais on sera appelé à se revoir de toute façon au sein du conseil municipal pour parler du projet CFK. Mais on est parti pour quelques années de toute façon. Rien ne sera décidé dans les médias. Et après, je vous propose de passer au vote. Allez-y, monsieur Fior.
Deux petites remarques. On peut trouver, un terrain d'entente. Si vous ne coupez que les arbres qui poussent dans les bâtiments, on est d'accord avec vous. Premier point. Deuxième point, quand même, une petite remarque sur Christian Garnier. Je doute que Emmanuel Macron soit intervenu sur le ministère de l'économie et des finances et sur les services fiscaux du Var pour vous dire de ne plus communiquer. Donc je crois qu'il a d'autres sujets en ce moment que celui du CFK. Mais bon, si vous voulez
s'occuper du CFK...
Monsieur Fior, j'ai pas dit qu'il y avait une intervention. J'ai dit que l'attitude a complètement changé, au point que on a travaillé l'année dernière sur le cahier des charges de ce qu'on voulait comme type de réalisation pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi. Ce cahier des charges en 13 000 aux services fiscaux, ils n'ont pas tenu compte. Je veux dire, ça a été le dossier, il a été refermé. Il faut dire que les gens ont changé, hein. Les têtes ont changé. Donc peut-être que c'est simplement de l'inattention. Je ne dis pas que c'est volontaire. Je dis que c'est le résultat. Aujourd'hui, c'est le fait et qu'on n'est plus dans la boucle comme avant. Voilà, c'est tout. Et je suis incapable de vous dire d'ailleurs aujourd'hui combien il y a eu de personnes qui ont manifesté leur intérêt au 15 janvier. Je ne sais pas.
Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Monsieur Fion, une dernière intervention et on passe au vote et on passe aux délibérations suivantes.
Monsieur Garnier, on est d'accord avec vous pour déplorer le fait que vous n'ayez pas ce niveau d'information.
Merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Vous votez pour donc, hein? D'accord. Les questions numéro 7 et 8 sont des questions liées. Ça concerne en fait le pôle culturel. Voilà. Donc la parole est à Christian Garnier pour les questions 7 et 8.
Très bien. Merci, monsieur le maire. Alors, suite à la finalisation des études d'avant-projet définitif du projet de la Cour, projet commun aux trois équipements, il convient d'apporter des modifications au programme ainsi qu'à l'enveloppe financière afin d'intégrer des aménagements supplémentaires indispensables à la qualité finale du projet. Le diagnostic sur les réseaux, notamment celui existant des eaux pluviales du futur CNRR, a démontré la nécessité absolue d'une reprise totale. Par ailleurs, afin de préserver l'aspect patrimonial du bâtiment déjà existant de la future bibliothèque, certains éléments seront restaurés à l'identique, ce qui a une incidence sur l'enveloppe prévisionnelle du monde. Au regard de ces deux motifs, il est nécessaire de prendre un nouvel avenant qui modifie en conséquence le contrat de mandat. Ainsi, le budget total du pôle culturel, hors bâtiment CNRR, passe de 1 220 737 TTC à 1 420 935 et la rémunération du mandataire augmente proportionnellement au marché, passant de 43 658 à 49 429. Soit 5 770 euros de plus. Un fonds de concours exceptionnel couvrant la totalité des augmentations est sollicité auprès de TPM, ce qui neutralise cette dépense supplémentaire sur le budget communal. Ce fonds de concours exceptionnel fait l'objet d'une proposition de délibération présentée devant ce même conseil municipal. Alors, je vais quand même vous commenter un peu pourquoi cette augmentation de la programmation de travaux. Simplement, quand on a La cour passe en dernier dans la réalisation. Vous savez que donc on a deux marchés en cours. On a un marché sur l'aménagement de la ludothèque et de la bibliothèque. Le CNRR fait son bâtiment. Et en troisième voie, il y avait la cour qui doit être commune. Alors, il y a des parties communes, des parties pour la commune du Pradé, des parties pour le CNR, etc. Il y a un partage. Mais c'est nous qui avions retenu le fait qu'on piloterait ce dossier. On s'est aperçu que les réseaux existants étaient très insuffisants après les études. Donc, quand on a lancé l'opération sur la cour, on s'est aperçu que les réseaux étaient très nettement insuffisants. La première version de l'architecte, c'était d'essayer de passer avec des pompages, des systèmes de pompage. Finalement, c'est une solution qui n'a pas été retenue pour plusieurs raisons. D'abord, on sait ce que c'est que les stations des groupes de pompage, dans l'entretien, dans les frais, etc. Ce n'est pas une solution qui nous convient bien. Et en plus, il fallait faire énormément de travaux à travers la cour, remonter la cour pour rechercher les réseaux, et on allait porter atteinte aux racines des platanes qui sont là. Et souvent, c'est des opérations qui apportent les maladies aux platanes parce que ça les affaiblisse. Et on se retrouve avec des arbres malades, encore une fois, M. Fior. Votre spécialité, l'arbre malade. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, l'architecte a dit qu'il n'y a qu'une seule opération, c'est le fonçage. C'est-à-dire on va passer sous la bibliothèque et on va traverser la route de l'avenue Jean Jaurès pour aller rechercher les réseaux. C'est la seule façon techniquement fiable de réaliser ces opérations. Donc, ça a eu un coût. Le coût, il est principalement pour TPM, d'ailleurs. Le coût de cette augmentation est pour TPM. Et c'est pour ça qu'après, en deuxième question, vous aurez la demande de fonds de concours, puisque TPM est d'accord sur le principe de subvenir au financement de cette partie-là, de cette augmentation. Voilà.
Merci, M. Fior.
Merci. Si M. Garnier veut bien me préciser de quel type de réseau il parle.
Alors, le réseau pluvial et le réseau d'assainissement, les deux réseaux.
Donc, l'assainissement, c'est la compétence de TPM. On est bien d'accord, M. Garnier?
Sur la voie, oui. Là, c'est TPM. C'est pour TPM, oui. Mais dans le cadre d'un fonds de concours, puisque la cour est commune. On a dit qu'on ne pouvait pas séparer le pilotage des travaux.
D'accord. OK. On va admettre ce principe-là. On l'évacue. Pas de sujet. De toute façon, que ce soit TPM qui paye ou que ce soit le Pradé qui paye, c'est toujours les Pradétans. Donc, ce n'est pas un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment vous pouvez asseoir la régularité, la légalité de cette délibération et de cette décision que vous prenez, quand on reprend l'historique. Vous avez engagé un maître d'œuvre, vous l'avez engagé le 11 juillet 2016 via la SAGEP pour un projet de travaux qui faisait 400 000 euros hors taxe. Ça, c'est le contrat que vous avez signé avec lui. 400 000 euros hors taxe de travaux, 75 000 de mobilier. Alors, je vous le convertis par honnêteté intellectuelle en TTC, ça fait 480 000 euros de TTC. Ensuite, vous avez signé un avenant qui l'a fait passer, enfin plus exactement, un avant-projet détaillé qui a chiffré à 716 000 euros de TTC les travaux. Ça a été signé sur cette base-là. Ensuite, vous l'avez fait passer à 1 220 000 euros TTC par un avenant numéro 1. Ensuite, par un avenant numéro 2 aujourd'hui, vous nous le faites monter à 1 420 000 euros. Normalement, pour la bonne information des conseillers municipaux, les avenants, ils se calculent non pas l'un sur l'autre, mais sur le marché initial. Déjà. Or, la délibération qu'on a ne nous mentionne que l'avenant numéro 1 et l'écart par rapport à l'avenant numéro 2. Premier élément. Deuxième élément, un avenant, normalement, dans un marché public, il ne dépasse pas 15% du marché initial. Aujourd'hui, on est passé
PD à 716 000, on est passé de 716 000 à 1,4 million. Ce n'est pas un marché. Oui, l'enveloppe financière, mais derrière, il y a la SAGEP qui passe le marché. On est d'accord. Oui, on verra les résultats, mais je vous pose la question, M. Garnier. Comme la SAGEP agit pour le compte de la commune et que vous augmentez l'enveloppe de la SAGEP et la rémunération de la SAGEP, on est bien d'accord. Comment la SAGEP fait pour signer des avenants de 100% d'écart avec les entreprises qui sont chargées de cette réalisation-là? Puisqu'elle agit pour le compte de la commune, il me semble que vous ne pouvez pas vous retrancher derrière en disant « c'est pas moi, c'est la SAGEP », parce que la SAGEP, elle agit pour votre compte. Donc je vous pose cette question. Je vous dis simplement que, sur le fond, que vous changiez les pierres reconstituées en pierres naturelles, ça me semble plutôt intelligent. Ce qui est dommage, c'est de les avoir prévues en pierres reconstituées avant. Que vous n'êtes pas capable de dimensionner le réseau par rapport à votre projet, ça prouve que vous avez mal estimé les besoins au départ. Mais bon, allez, c'est pas ça le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est que ça fait 5 ans que ça dure, ce marché, que chaque fois, il y a un avenant, et que heureusement qu'on a la SAGEP pour nous couvrir, parce que sinon, on passerait des avenants avec tout le monde, avec tous les corps de marché, qui seraient... Alors, moi, je pose simplement la question, comment, puisque le maire se gargarise tout le temps de sa bonne tenue sur les marchés publics et d'avoir fait avancer les choses en matière de marché public, sur quelle base la SAGEP passe ses conventions avec 100% d'augmentation? Merci.
D'abord, il faut savoir qu'il y a un décret qui est passé qui permet de gérer ces 15%. Après, la SAGEP, c'est justement pour ça. Je sais qu'on a un différent là-dessus, mais on a le droit, il n'y a pas de problème. On a un vrai différent sur les SPL. Nous, on aime bien utiliser des SPL, des sociétés publiques. Donc, nous, en l'occurrence, la SAGEP, dont nous sommes les actionnaires, ça nous permet d'avancer sur un certain nombre de projets. Par exemple, le CTM, qu'on a réussi à finir, qui a été livré cette année. Par exemple, les logements communaux Sandro qu'on a rénové grâce à la SAGEP, ça va plus vite. Et puis maintenant, le pôle culturel. Moi, je voudrais revenir sur les chiffres, parce qu'on parle de chiffres là. Le pôle culturel, au final, c'est dont ça a été rappelé tout à l'heure, le montant total des travaux pour la partie commune, c'est-à-dire la ludothèque et la bibliothèque, 1 420 000. Le montant pour le TPM du conservatoire, 2 322 000. Donc au total, on est sur un total de projets, pour faire court, 3 millions 7,3 millions, près de 4 millions d'euros. Au final, pour la commune, sachant que sur le projet purement commune, on a une aide de la région de 168 000 euros, 300 000 euros du département. TPM paye l'intégralité du conservatoire, 2 322 000, et on a un fonds de concours TPM qu'on va voter ensuite de 210 000 euros. C'est-à-dire que le total des recettes pour ce projet de 3,8 millions, il est de 3 millions d'euros. Donc reste à charge pour la commune en TTC, 800 000 euros en gros. Si on enlève le FCTVA, on est à 552 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'on a un projet à près de 4 millions d'euros qui coûte un peu plus de 500 000 euros, 550 000 euros. On est à 12-13%. Sur un pôle culturel en plein centre-ville, ça coûte 500 000 euros à la commune pour un projet qui va au final. C'est un projet, on amène 4 millions d'euros en centre-ville pour rendre de l'attractivité au centre-ville, pour le dynamiser. Donc je sais que vous êtes opposé à ce projet. Nous, on est très attachés à ce projet. Vous y êtes opposé, nous y sommes très attachés. On dynamise notre centre-ville. C'est un lieu d'échange culturel, c'est un lieu intergénérationnel. Ça va rendre service à beaucoup de familles, à beaucoup d'enfants qui vont découvrir des passions culturelles. On y est très favorable. Donc il y a un changement de programme, effectivement, sur le réseau, qui est payé par TPM, ça vous navre, nous, ça nous va bien. Voilà, on est très content que ce projet avance. Je pense que ça va être un magnifique établissement à destination des plus jeunes, à destination des moins jeunes. C'est quelque chose qui va être ouvert, qui est en plein centre-ville. Je vois beaucoup d'articles aujourd'hui passer sur différentes communes qui remettent du service public en centre-ville, qui veulent redynamiser leur centre-ville. On est vraiment dans cette logique. Ce pôle culturel va nous aider à donner encore plus de dynamisme au centre-ville. On peut toujours y ergoter sur différentes choses. Nous, on est dans l'action, on a une véritable volonté. On veut embellir notre centre-ville, on veut le dynamiser et en même temps, on gère les sous de la commune. La preuve, c'est que sur un projet à 4 millions d'euros total, le coût de la commune, il va être de 550 000 euros. Je pense que c'est un signe de gestion en bon père de famille de la commune à destination de tout le monde. Ça vous navre, ça nous ravit. Pas que ça vous navre, ça nous ravit simplement qu'il y ait ce pôle culturel.
Merci d'avoir déformé mes propos. Je ne suis pas intervenu sur le conservatoire régional. Je n'ai jamais dit que ça me navrait. Je vous ai simplement posé une question auquel vous n'avez pas répondu. Voilà. Maintenant, si votre conception de la démocratie et de la transparence, c'est ça, eh ben, on en a les limites de l'exercice. C'est-à-dire que je vous pose une question sur les marchés publics, vous me répondez politique. En plus, ce que vous dites est faux, mais bon, même si c'était vrai, même si les prédateurs ne payaient pas ce que la métropole va payer ou ce que le conseil départemental va payer, même si c'était hors sol, même si c'était les fonds européens, qui c'est qui paye tout? Bon, alors, répondez-moi simplement sur comment vous faites pour respecter les règles du marché public avec une augmentation de plus de 100%. Merci. Après, vous voulez me citer un décret qui dit 15%. Très bien, citez-moi le décret 15%, je le connais, merci.
Vous le connaissez là? C'est lequel? Pour une fois, c'est moi qui pose les questions, allez-y.
Monsieur le maire, vous faites quoi comme profession? Vous faites quoi comme profession? Vous croyez que vous allez me donner des cours?
Monsieur Fior, vous qui savez tout, donnez-ni, qu'est-ce que c'est que ce décret? Allez-y, on vous écoute.
Commencez par apprendre que le décret, il a été transformé dans un code des marchés publics qui vient de sortir là. Et donc on ne parle plus du décret, on parle du code des marchés publics.
Lequel? Bon, puisqu'apparemment vous n'avez pas la réponse, je vais vous le donner. C'est un décret du 25 mars 2016, article 139. Lorsqu'il est impossible de changer de prestataire, plus limite de 15%. Au-delà de ça, monsieur Fior, c'est pour ça qu'on passe par une SPL, justement. L'intérêt de passer par une SPL, vous l'avez dit vous-même, c'est que on a le contrôle analogique, hein. Ça fait l'objet d'une remarque de la Chambre régionale des comptes. On s'attache bien sûr, analogue, pardon, j'étais dans l'informatique. On s'attache à faire ce contrôle analogue pour être certain que la SPL répond à tous ses engagements vis-à-vis d'un certain nombre d'obligations qu'il a. Et si nous avons fait le choix sur ce projet comme sur d'autres de passer par une SPL, c'est pour être encore plus efficace dans l'action publique, encore plus efficace au service des projets, encore plus efficace au niveau pour les prédateurs et nos administrés. Là-dessus non plus, on a un désaccord, mais tant mieux, c'est comme ça que la démocratie, elle vit, parce qu'on a des accords, on n'est pas d'accord sur la façon de conduire les projets, les livrer. Ma foi, on ne va pas se disputer pour ça, on s'aime bien au final. Alors on va voter cette question, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, qui est pour? Allez, on refait alors. Qui est contre? Ah, un peu plus. Qui s'abstient? Un peu moins. Et qui est pour? Toujours les mêmes. Alors, question numéro 8, c'est pareil. Ça vient d'être évoqué. Ouais, il est trop fort.
Dans la suite logique, la demande de fonds de concours exceptionnel à la métropole TPM pour le financement des travaux d'aménagement du pôle culturel. Considérant la nécessité de travaux inhérents à la cour du pôle culturel afin d'accueillir dans de bonnes conditions les usagers, etc. Considérant la nécessité absolue de reprise des réseaux, la possibilité pour la métropole TPM de financer les opérations au titre d'un fonds de concours exceptionnel, décide, la commune sollicite, après la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, une demande de fonds de concours exceptionnel. Le coût global de l'aménagement de la cour s'élève à 425 698 TTC et la commune sollicite un fonds de concours exceptionnel à hauteur de 50% du montant, soit 212 849. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à effectuer cette demande de concours.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez contre une demande de concours de 100 000 euros. Donc, hein. Vous ne souhaitez pas que ta métropole... D'accord. Pourquoi pas? Allez, qui est pour? On est sur la question 9 et 10, ce sont des questions de régularisation de foncier, sur le projet Ouest. Ouais, merci.
il s'agit de régularisation sur l'entrée ouest du Pradé, puisque suite à la mise en place des travaux, il a fallu obtenir un peu plus, hein, c'est ça Paul, il a fallu obtenir un peu plus de terrain que de prévu à l'origine par les géomètres. C'est toujours les conséquences de travaux, hein, on sait ce que c'est. C'est jamais très très précis, et puis il y a toujours des surprises de dernier moment. Donc aujourd'hui, on vous propose de régulariser deux parcelles. La parcelle AN546 d'une surface totale de 1852 mètres qui a été impactée d'environ 49 mètres carrés. Le propriétaire a donné son accord à la commune qui procédera à l'acquisition pour 1 euro symbolique. Voilà. Première.
Merci. Merci. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, l'unanimité, je vous remercie. Question suivante, la 10. Même tarif.
Même chantier, même emplacement. La parcelle voisine sur laquelle également on a dû rectifier les limites de l'emprise de la voirie. Il s'agit d'une parcelle sur laquelle on a demandé la cession de 69 mètres carrés. Le propriétaire a donné son accord à la commune pour 1 euro symbolique. Donc merci de délibérer en ce sens.
Merci Christian. Donc pareil, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Les questions numéro 11 et 12, donc question RH. La parole est à Pascal Compins. La première, ça concerne le tableau des effectifs. Ensuite, ça sera la mise en place des tickets restaurants pour les agents de la commune du Pradec.
Bonjour à tous. Donc, délibre numéro 11 concernant la modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs doit être modifié afin de tenir compte des transferts d'agents dans le cadre de la transformation de la communauté d'agglomération de TPM en métropole, soit 32 agents concernés, 29 à temps complet et 3 à temps compris entre 60 et 90%. Des recrutements et des prévisions d'avancement de grade et de promotion pour l'année 2019, du trop grand nombre de postes déclarés non pourvus dans certains grades qui ne correspondent plus à des besoins pour la collectivité et qu'il convient donc de rendre plus conforme à la réalité. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise à jour du tableau des effectifs qui porte sur la suppression de 59 postes, je vous fais grâce de l'exhaustivité, et de la création de 25 postes. Vu l'avis favorable du comité technique rendu à l'unanimité le 18 janvier 2019, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau tableau des effectifs du 1er février 2019.
Je vous remercie. Des questions ? Monsieur Fior ?
Fourni un tableau des effectifs qui est daté du 1er janvier 2019. Donc je suppose qu'il ne correspond pas au tableau des effectifs qui résulte de la délibération.
Il y a trois documents. Il y a le tableau du ROB, il y a le tableau des effectifs et aujourd'hui la délib. Donc effectivement, on a les chiffres de janvier 2019 pour ce tableau des effectifs.
Oui, mais ce qu'on vote, ce n'est donc pas ce tableau. Si ? Ben, c'est une question que je vous pose. Oui, non, je ne sais pas moi. C'est vous qui faites voter. Parce que si c'est ce tableau, ça ne correspond pas à cette délibération. Le résultat de la délibération, c'est ce tableau ? Oui ? Non, mais je suis sérieux, je vous pose une question simple.
Vous voulez quoi ?
Je veux savoir si...
Le détail des gens qui sont transférés, question ?
Vous nous dites qu'on a un tableau des effectifs, on supprime des emplois, on crée des emplois. Bon, 56, 50, 59, je ne sais plus, bon, voilà. Est-ce que le résultat final, c'est ça ? Si j'applique cette délibération, je tombe sur ça ?
Oui.
Oui. Bon. Je vais le prendre pour comme tel. Donc, il fallait le dater du 1er février, alors. On est d'accord ? Bon.
OK.
Non, mais parce qu'on n'a pas compris ça. Hein. Donc...
Madame Denis, parce qu'on va pas attendre de 10 minutes. Est-ce que vous pouvez fermer? Est-ce que vous pouvez... Merci. Madame Denis.
Merci. Je voudrais savoir pourquoi vous créez un poste d'attaché hors classe.
Alors, le poste d'attaché hors classe, c'est simplement dans le cadre d'un déroulement de carrière ou d'avancement de grade. Donc, d'une. Vous confondez le recrutement et la nomination.
Poste au tableau des effectifs. Je vous ai montré la réglementation la dernière fois, on ne pouvait plus créer de poste de directeur territorial, il fallait créer un poste d'attaché hors classe. Peut-être que dans quelques mois, on va voir transférer le 1 agent titulaire de directeur vers attaché hors classe. On verra.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Deux abstentions? Alors. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, question numéro 12, ça concerne la mise en place de tickets restaurants.
La mise en place des titres restaurants à destination des agents municipaux. Grâce aux efforts de gestion opérés depuis 2014, la commune peut désormais mettre en place des mesures en faveur des personnels qui ont très largement contribué à la réalisation de ces économies. Ainsi, en 2018, après l'ouverture de la possibilité de payer une partie des jours épargnés sur les comptes épargne-temps, la commune a pu mettre en place le RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise, engagement professionnel, ouvert également aux agents contractuels qui ne bénéficiaient d'aucun régime indemnitaire jusqu'alors. En 2019, au regard de bons résultats sur les dépenses du personnel en 2018, la commune souhaite mettre en place des titres restaurants pour les agents. Ce dispositif fera l'objet d'une mise en œuvre commune avec le CCAS, qui souhaite également en faire bénéficier ses collaborateurs. D'une valeur faciale de 6 euros par jour travaillé, ils feront l'objet d'une participation de l'employeur à hauteur de 50%. La part salariale sera réduite de salaire de l'agent. Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires ou les contractuels ayant plus de 6 mois d'ancienneté pourront y accéder. Ce dispositif n'étant pas cumulable avec toute autre aide de la restauration, les agents qui souhaitent y adhérer devront renoncer à toute autre aide de la ville, repas servi par la cantine centrale, prime de restauration. Conformément à la réglementation, le salarié a droit des titres restaurants à la hauteur d'un par jour travaillé et par repas, compris dans son temps de travail journalier. Les titres restaurants sont personnels et ne peuvent pas être cédés, même gracieusement, à un tiers. Ils sont utilisables tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Dans la limite de 19 euros par jour, l'agent peut acheter son repas, salade, sandwich, plat préparé, snacking, dans un restaurant ou un commerce affilié. La commune du Pradé souhaite que les titres restaurants soient distribués sous la forme de cartes de paiement, permettant de contourner la difficulté liée à l'impossibilité de rendre la monnaie sur des titres papier. Le paiement par carte se fait au centime près dans la limite de 19 euros par jour, de sécuriser les transactions en cas de perte ou de vol, ce qui est impossible avec les titres papier. De faciliter la gestion en interne puisque les cartes sont chargées à distance et qu'il n'y aura pas de stockage ou de remise contre signature de carnet papier, les agents pourront opter chaque année pour l'adhésion ou pas au titre restaurant. Cette décision les engage pour un an. La dépense prévisionnelle en année pleine est de 112 200 pour la commune. Pour 2019, la mise en œuvre se fera au 1er juin, temps de la procédure de mise en concurrence, ce qui fait une dépense de 66 100 euros. Vu l'avis favorable du comité technique rendu à l'unanimité le 18 janvier 2019, il est proposé au conseil municipal d'adopter la mise en place des titres restaurants dans les conditions décrites ci-dessus, d'autoriser M. le maire à passer tous les actes permettant la mise en œuvre de ce dispositif.
Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Meurier.
Oui. Est-ce qu'il a été proposé au personnel bénéficiaire des supports papier ou vous avez décidé uniquement le support magnétique?
Non, pas du tout. Hein. Ça fait l'objet d'une concertation avec le comité technique de la semaine dernière.
Par rapport à la carte magnétique, elle est rechargée tous les mois
Et est-ce que, je sais pas, par exemple, au bout d'un an, si on n'a pas utilisé les crédits, c'est perdu ou est-ce que c'est indéfini?
En général, sur les tickets resto, c'est le 31 janvier de l'année qui suit.
Alors, dans ce cas-là,
pour la péremption.
Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a donc une péremption. Donc, qu'est-ce qui se passe si un employé, par exemple, un personnel n'utilise pas tous ses crédits, donc il va les perdre au final?
Vous avez des enfants, monsieur Meurier?
Non, mais j'ai des tickets resto.
Alors, la réponse est dans la question.
Si, on va. Monsieur Fior, une question peut-être? Allez-y.
Non, pas une question, deux observations. D'abord, nous sommes extrêmement favorables à cette mesure. Donc, merci pour eux. Deuxièmement, on regrette la durée des marchés publics, 6 mois pour arriver à mettre en place cette procédure. Et on regrette l'absence d'anticipation que vous auriez pu avoir pour la mettre en place directement au 1er janvier 2019. Mais ne gardez que nous sommes extrêmement favorables à cette mesure. Merci.
Vous ne vouliez pas y voir un quelconque aspect électoraliste. C'est pas ce que vous vouliez dire. C'est pas l'objet de la question.
Alors, vous voyez, monsieur Campin, je n'ai absolument rien. Alors,
comme vous avez l'habitude de suggérer, j'aurais pu moi-même.
Je n'ai rien suggéré du tout, et pourtant, ce type de mesure à 6 mois des élections pourrait passer pour une mesure électorale. Mais ce n'est pas mon problème, ce n'est pas notre problème. Je répète, parce que vous avez du mal à comprendre ce que j'ai exprimé, j'ai dit uniquement. Nous sommes extrêmement favorables à cette mesure. Et je vous trouve là-dessus correct.
Les agents apprécieront. Je pouvais vous rafraîchir la mémoire sur la prime que vous aviez décidée en décembre 2013, c'est-à-dire trois mois avant les élections, une prime de rendement dite collective. Heureusement était collective. Ouais. Parce que ça faisait 3 ans que vous aviez oublié de faire les entretiens individuels de chaque agent. Ça devenait compliqué de faire de le...
Alors, monsieur Campas, puisque vous m'interpellez là-dessus, d'accord? Premièrement, c'est faux. La prime, on l'a versée 2 années d'affilée. Deuxièmement, les entretiens d'évaluation, ça ne relève pas de l'adjoint aux finances. D'accord? Ça relève d'abord de l'administration. Non, monsieur Campas, soyez précis. Qui c'est qui fait l'évaluation dans une collectivité?
Manager,
c'est les élus?
C'est le manager N+1.
Oui, le manager N+1, le manager de proximité. C'est d'abord un fonctionnaire. Donc en faisant ça, vous attaquez les fonctionnaires qui étaient en place. Troisièmement, je vous trouve, encore une fois, à votre propos particulièrement déplacé, parce que moi, j'ai simplement dit que j'étais extrêmement favorable à cette mesure et je n'ai pas fait de politique politicienne. Alors, si vous voulez reprendre tous les arguments que vous avez cités, notamment, pas vous, parce que vous n'y étiez pas, mais M. Stassinos, M. Garnier, Mme Sicardi, du temps où ils étaient à l'opposition, et si vous voulez reprendre les tribunes qu'ils publiaient à cette époque-là, vous verrez que tout était basé sur des sujets électoralistes. Alors, ne venez pas me faire de leçons, s'il vous plaît.
Je pense qu'il faut rester sur le fait que c'est une bonne mesure, pour les agents. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le point principal. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, questions 13 et 14, ce sont des questions qui ont trait aux associations. Donc, la parole est à Valérie Riadan.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit, concernant la convention collaborateur occasionnel bénévole, de poser un cadre aux interventions de bénévoles dans le cadre de la mise en place de différentes activités physiques, sportives, culturelles et artistiques, à la demande d'associations ou de parents d'élèves qui désirent partager une compétence. Il ne s'agit bien sûr pas de remplacer les agents communaux, mais d'intervenir dans le cadre d'activités bien spécifiques. Donc, dans les domaines suivants, activités physiques et sportives, activités culturelles et artistiques, animation citoyenne. Par exemple, dans le cadre du passe sport senior, des sages sportifs municipaux pour les enfants de 6 à 14 ans, des garderies municipales de la pause méridienne, des écoles du Pradet. Donc, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la collaboration de ces bénévoles et d'autoriser M. le maire à signer la convention jointe. Merci.
Merci Valérie. Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question 14.
Donc là, il s'agit juste de compléter et de renouveler la convention passée avec l'association Les Ateliers de l'Estreinte, en particulier pour compléter au niveau scolaire et périscolaire. Voilà.
Merci à nouveau. Une question?
Nous sommes extrêmement favorables à cette mesure.
Merci, Monsieur Fior.
Donc, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, les décisions en communication vous ont été communiquées. Et puis, pour ceux que je ne vois pas avant les vacances, très bonnes vacances de février. Monsieur Verrier, vous avez un point abordé ou vous me faisiez au revoir?
Ça veut. Là, vous avez dans l'annexe une décision sur les tarifs pour les terrasses. Là, je constate que finalement, les délais où les tarifs sont les plus élevés ont été augmentés. Vous voyez ce que je veux dire? Ancienne date, 15 juin, 15 septembre. Nouvelle date, 1er juin, 30 septembre. Donc moi, j'y vois un nouvel impôt déguisé.
Alors, rien n'a été augmenté. En fait, c'est à la demande du trésorier. On nous a demandé de clarifier la décision en communication qui avait été passée il y a quelques années. Et en fait, les modes de calcul n'étaient pas très clairs. Donc, l'idée, ça a été, au lieu de faire mensuellement, de faire par période. Mais avant, on coupait, c'était vraiment tiré par les cheveux. L'idée, c'est de rester sur les mêmes tarifs. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué au niveau... au niveau du mode de calcul, surtout le calcul précédent. Là, maintenant, on arrive sur quelque chose de bien clair.
Merci Valérie. Bon, bah, merci à tout le monde pour votre présence. Et puis à nouveau, donc, des bonnes vacances de février pour ceux qui partent ou même ceux qui restent d'ailleurs, mais ceux qui profiteront un peu des vacances en famille. Bonne journée à tout le monde.